Boulevard.
Les midis, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Toujours pas trouvé notre Gilto, 418-971-1021. S'il y en a.
Pascal, je sais pas si je ris ou si je suis découragée.
Pascal Morgan, c'est comme une bulle au cerveau qui est apparue juste avant de rentrer. Tu comprends, c'est pas prévu.
Bien entendu, on cherche encore Gilto, là. Pour
alors, si vous connaissez Gilto, on aimerait savoir s'il est à l'écoute. 418-971-1021. Non, sans blague, c'est le numéro pour réagir et vous allez réagir, je suis certain, dans cette émission parce que l'actualité a explosé en ce début de vendredi. Donald Trump qui dit au Canada qu'il doit d'honneur à cause de la pub de Doug Ford. La loi spéciale, on est en train de chicaner à l'Assemblée nationale. Bref, il y en a des choses à couvrir. Puis il y a notre fameuse campagne municipale également qui continue. D'ailleurs, Mathias Turcotte va être avec nous tout à l'heure aux alentours de 12h45. Mathias est allé à deux conférences ce matin. Bruno Marchand et celle des médecins omnipraticiens du Québec. Donc, il va nous revenir avec plein d'informations intéressantes. On le répète, c'est l'émission Nageuse. Vous l'avez entendu, Pascal CV. Comment ça va, Pascal?
Ça va très bien. Vendredi, bien heureuse de ça. Fait beau. Il n'y a plus, toute la semaine. Je pense que le week-end sera ensoleillé.
Ah, clair.
Puis on a besoin d'une petite pause. Là, c'est rare que je dise ça, mais d'une petite pause pour bien assimiler tout ce qui se passe autour de nous.
Ouf,
en termes de faits divers, ça prend un peu le corridor sombre des nouvelles oubliées ces temps-ci parce que la politique, elle est chaude. Je ne dis pas qu'elle est bonne, je dis qu'elle est chaude.
Ouais, elle est omniprésente.
Mais tellement de faits divers. Je ne sais pas si vous avez deux minutes aujourd'hui, on vous en reparlera, mais sont à donner froid dans le dos.
Oui, tu veux nous faire une petite chronique? Les nouvelles qu'on a laissées passer cette semaine, mais là qu'on va remettre à l'avant-plan, j'aime ça.
Oui, puis tu sais, il n'y aura pas juste du à donner des frissons dans le dos.
Non.
Il y a aussi qu'est-ce qui se passe au musée du Louvre.
Ah, on va revenir là-dessus. Ce fameux vol. Jeff Gosselin, ex-conseiller municipal de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, sera avec nous aussi. Il a fait une lettre ouverte hier dans les médias en disant « Faut donner une majorité à Bruno Marchand. » Donc, on va essayer de comprendre ceci avec lui. Et on aura aussi Irénée Rutema qui va venir nous faire, comme à son habitude le vendredi, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en politique municipale, notamment la campagne municipale. Farnell Morisset est installé avec nous en studio. Farnell, comment ça va?
Ah, moi, ça va bien. J'ai pas l'impression que c'est le cas pour tout le monde à l'Assemblée nationale présentement ou ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui brassent. Mais moi, ça va super bien. Puis je suis reconnaissant pour ça.
Exactement. Merci, Nadine, de nous écrire. Allô, Jeff et Pascal. J'en peux plus de Donald Trump. Il ne respecte rien ni personne. Pouf, t'as bien raison, Nadine. Avant qu'on parle de cette loi spéciale qui soulève l'ire des médecins, Pascal, qu'est-ce qu'on a aussi à surveiller là, en ce début de vendredi? Parce que ça bouge sans bon sens dans l'actualité.
J'ai fait une pochette économie. Je vais y aller en rafale. Préparez-vous. D'abord, on a une invasion des produits laitiers américains au Canada. On en reparlera, mais ça, c'est une nouvelle. Il y a Air Canada aussi qui a supprimé des centaines de postes. On parle de licenciement collectif. On parle aussi, bien sûr, de tout ce qui se passe autour du fameux Denis Coderre avec ses problèmes.
Oui, problème au fisc encore
ça perdure,
pour Denis.
Ça perdure. Alors, il y a ça. Et bon, là où je mets un petit peu plus de temps, c'est effectivement les négociations avec Trump et Mark Carney. Donc, tout le monde s'en mêle. François Legault aussi s'est dit inquiet, qui ne l'est pas là, pour la situation économique du pays. Mais lui est sorti. Est-ce que c'était pour faire du capital politique? Ça, tout le monde a son mot à dire. Mais on presse du côté de François Legault, donc du provincial, le premier ministre Carney, d'investir en défense. Hein. On veut mieux compenser les pertes d'emplois provoquées par les tarifs américains. Je vois qu'il y a une petite nouvelle qui nous semi-concerne aussi. Ashton, qui réussit à faire sa place au niveau économique partout au Québec. Notre denrée respectable de Québec va s'investir et s'implanter un peu partout maintenant dans la province.
Vive la poutine!
Mais il y a aussi une grande campagne avec Ivan Demidov qui va commencer.
Oui, le joueur du Canadien, la recrue russe par excellence!
Ça va venir à vos yeux, à vos oreilles, mais on a décidé de mousser les débuts dans la grande région de Montréal avec une campagne publicitaire et on a choisi la jeune vedette du Canadien, Ivan Demidov. Hein? 24e restaurant Ashton, initialement basé ici, qui s'en va du côté de Mirabel le 7 octobre dernier. Alors, voilà que l'annonce avait été faite. Si je vous parle, sinon, de d'autres petites nouvelles qui nous concernent, ben, petite étant non, mais on s'en va vers la finalité de tout ça. Viendra l'artillerie lourde quand même dans le tout, mais là, si je vous parle de tout ce qui est commission Galant, vous savez, ça tire à sa fin. Il y aura des constats à faire de ça, de la commission Galant. Mais c'est ce qui nous attire depuis plusieurs semaines déjà, mais à Québec accorde une nouvelle prolongation pour le dépôt du rapport. Mm-hmm. Chose certaine, ça va prendre des semaines, mais là, on est vraiment en train d'amasser l'information finale puis d'en faire un genre de résumé pour le rapport de la commission Galant. C'est sur le fiasco.
Ouais, on vise février au lieu de décembre.
Ouais, finalement. faire déposer en février.
Exactement. Oui. Fernand, ça ne doit pas te surprendre, ça, parce qu'il y a eu du stock pas à peu près à la commission Galland.
Ben, je suis content qu'ils prennent le temps ils se donnent le temps de faire un rapport. J'espère que ça va être un rapport qui va être digne du temps additionnel qu'on donne, mais moi, je le vois d'un bon oeil.
Oui, exactement. Et Pascal, loi spéciale, qu'est-ce qui se passe? On sort la matraque, je pensais.
Ah, c'est une énorme journée. Là. La loi spéciale, c'est des pénalités si les médecins travaillent moins. C'est ce qui ressort dans les médias. Donc, ça a été déposé aujourd'hui. On veut modifier la rémunération des médecins. On prévoit des pénalités s'ils réduisent leur pratique de façon concertée. On tente de prévenir les contre-coups dans cette réforme-là. Donc, ça sera adopté sous bâillon. Peu de façons de détourner ce que le gouvernement tente de mettre en place de cette manière-là. Probablement au cours de la nuit, donc de vendredi à samedi, cette nuit-là, ça va se jouer. Pénalités qui seront imposées si les médecins réduisent leurs heures de travail. Et chose certaine, c'est un projet de loi qu'on dit risqué, dangereux. C'est dénoncé par les médecins de famille aussi. Tout le monde a son mot à dire. Chaque profession de la médecine lève la main, puis le gouvernement continue d'aller de l'avant.
Exactement. Comme j'ai dit, Mathias Turcotte va venir aux alentours de 12h45 nous présenter le point de vue des médecins omnipraticiens. On a eu en ondes dans le Point de Max Marc Rangé, un spécialiste en relations syndicales que vous entendez régulièrement sur les ondes de Boulevard 102.1. Farnel, si tu permets, je te fais écouter ce que Marc avait à dire et par la suite, on en jase.
C'est vraiment matraque, là. À la première lecture, ça va très, très loin. Parce que c'est des interdictions avec des pénalités, mais les interdictions, là, je regardais entre autres un des articles, là, parce qu'à un des articles 131, on fait l'énumération des interdictions, mais après ça, il y a le rôle, on crée un rôle d'un inspecteur spécial qui, lui, là, je l'ai ici, ça c'est à l'article 169, puis je serai pas technique après ça, là, mais le ministre peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur afin de vérifier l'application des dispositions du présent chapitre avec toutes les interdictions. Là. L'inspecteur peut pénétrer à toute heure raisonnable dans tout endroit où un médecin exerce ses fonctions ou activités, exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux fonctions, aux activités exercées par les médecins ainsi que pour examen ou reproduction, communication de tout document serait important. Puis là, ça continue. Fait que bref, non seulement on vient les contraindre, mais en plus, on les met... Ma première réaction, là, c'est sous quasi-tutelle.
Farnel, le gouvernement, il va vraiment très, 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 très fort. Je te dirais même, de mon humble avis d'animateur radio, trop fort là, avec les médecins, avec cette loi spéciale-là.
Oui, quelque chose qui est important à comprendre, c'est que c'est pas toutes les lois spéciales qui forcent les gens à retourner au travail qui sont les mêmes. Ils sont toutes faites sur Terre un peu de façon différente. Essentiellement, l'approche générale, c'est de dire... vous avez plus le droit, là, on dit ça aux travailleurs, vous avez plus le droit de vous coordonner pour faire des moyens de pression. Vous avez plus le droit de vous coordonner, par exemple, pour faire la grève, ce genre de choses-là. Parce qu'on peut pas forcer quelqu'un à travailler. Je veux dire, ça, c'est de l'esclavage. On n'est quand même pas rendu là. Mais ce que ce projet de loi s'y fait, OK? Alors, on parle de celui-là, là. Quand on dit qu'il va très loin, c'est que lui, entre autres, je veux dire, j'ai pris à peu près une heure pour le lire ce matin, là, c'est 150 quelques pages, là, je ne l'ai pas lu au complet, alors regardez ça en tête, mais ça veut quand même dire, je l'ai probablement plus lu que les députés de la CAQ qui vont le voter ce soir, OK? Une des choses qui se trouve là-dedans, c'est que si les médecins réduisent leur taux de travail, c'est-à-dire s'ils font juste travailler moins, et ça va être présumé que c'est de concert. Alors, on peut s'imaginer, là, demain matin, il y a fort probablement bien des médecins qui, après avoir mangé la claque d'aujourd'hui, vont pas vouloir travailler autant. Vont peut-être prendre, écoute, j'ai besoin d'un petit break, là, je suis tanné, tu sais. Et le simple fait qu'il y en a beaucoup qui le font tous en même temps, ça va automatiquement être présumé être de la concertation pour ralentir le travail.
Et ça va être assez pour avoir une sanction?
Ça serait assez pour être une sanction. Donc, ça serait à eux de prouver qu'ils ne se sont pas concerté. On renverse le fardeau de preuve. T'es coupable jusqu'à ce que tu prouves ton innocence en tant que médecin, que tu t'es pas concerté. Puis je dis, c'est ça.
On envoie les conversations Messenger.
T'sais, prouve que t'as pas concerté avec quelqu'un. Genre, prouve que t'as pas eu une conversation avec quelqu'un d'autre pour dire, ouais, finalement, peut-être que demain, on rentre pas travailler ou on travaille pas aussi fort. C'est extrêmement draconien comme projet de loi. Et je peux certainement comprendre qu'il y a bien des médecins qui vont le recevoir comme une claque sur la face.
Mais Farnel, ça va contre les droits fondamentaux qui existent. Là. Puis là, on s'entend, là, je suis pas le plus grand des syndicalistes. Là. On l'a vu dans le débat en passant la semaine dernière entre toi et Lambert. Mais tu n'as pas le droit d'empêcher les gens de manifester. Tu n'as pas le droit d'empêcher les gens de se concerter pour avoir justement des meilleures conditions de travail ou pour avoir... gain dans une négociation qui allait nulle part.
Ben, c'est contraire au principe des droits fondamentaux, oui, mais au Canada, les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Il y a eu des lois spéciales dans le passé. Les tribunaux généralement reconnaissent au gouvernement le droit d'empêcher la concertation pour ralentir ou empêcher le travail. Mais ce qui est vraiment intense ici, c'est que si le travail fait simplement ralentir par lui-même, parce que les gens sont découragés, on présume qu'il y a concertation et on va forcer les médecins à prouver qu'ils ne se sont pas concertés. Ça, c'est... Ça, je veux dire, il va y avoir une contestation.
C'est inverser le fardeau
de la preuve. On inverse le fardeau de la preuve. Il va y avoir une contestation, c'est clair. On va voir ce que les tribunaux vont en dire. Mais y aller de main aussi forte que ça pour un projet de loi qui a été déposé à genre 9 heures ce matin puis qui va être voté en fin de journée aujourd'hui par un gouvernement majoritaire qui n'a plus l'appui du peuple, il y a quelque chose là, qui se passe qui n'est pas correct.
Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort.
Moi non plus.
Tu sais, je me dis, on va faire une loi spéciale pour justement faire en sorte que les médecins demeurent au travail, ouais, qu'on recommence l'enseignement, parce c'est que ça. C'était une des priorités pour pas amener qu'on se retrouve avec un trou de
exact.
Service.
C'est une loi spéciale standard qui dit pas le droit de vous concerter, mais genre, on va pas présumer que si vous êtes juste fatigué, vous restez chez vous parce que vous êtes tanné, vous êtes en train de violer la loi. Là.
J'ai un malaise aussi, peut-être, puis du moins une réflexion par rapport au courant de société. Quand tu veux amener les gens à travailler de concert pour améliorer les choses, quand tu veux changer les choses, souvent d'y aller avec des sanctions, c'est pas la manière où tu vas arriver à tes fins, par exemple. Puis, tu sais, on voyait un Christian Dubé essayer de réformer la santé, puis on disait hey, bonne chance, il y en a tellement qui ont essayé, puis on sait qu'il y en a qui sont plus privilégiés que d'autres, mais il faut faire avancer les choses. Puis, j'ai l'impression que ça divise encore plus les corps de métier, puis ça divise encore plus le privé et le public, et même les citoyens envers ce métier-là qui est souvent vu comme hiérarchiquement très, très haut. Fait que là, il y en a qui le regardent, puis en disant ben vous autres, on le sait bien, les médecins. Quand il y a certains des points qu'ils avancent qui sont à considérer aussi, de se dire ben nous autres, on est en train de nous demander en fait d'être rémunérés selon la performance du groupe. Fait qu'on veut pas que vous, collectivement, vous manifestiez votre désaccord. Par contre, collectivement, vous allez être rémunérés selon la performance de
c'est
tous et
bon
chacun.
Ouais.
Y a des choses
on a juste le droit
ironiques.
De se concerter en direction que le gouvernement le veut puis pas en direction que le gouvernement veut pas.
Ben ça, il me semble que ça a rien pour ramener un groupe ou un corps de métier, vous dites ce que vous voulez, un ordre, à tenter d'améliorer les choses, là.
Ouais, je veux dire, ça fait longtemps qu'on sait que ce problème-là s'en vient, là. Ça, c'est une crise qu'on a vu venir pendant longtemps, puis le gouvernement a dormi sa switch, probablement en se disant que la crise va être politiquement payante, ça va leur permettre de sortir la matraque, justement. Alors, c'est un peu ça qui se passe, puis ça va être, au lieu d'avoir une opportunité pour ramener tout le monde ensemble autour de la table, puis se dire, OK, on va se parler, le gouvernement prendre les grandes mesures, puis ouais, je pense que ça va créer encore plus d'animosité, encore plus de division, puis...
Qu'est-ce qui sort de bon? Parce que je me dis, s'ils font ça, si le gouvernement souhaite faire ça pour eux, il doit avoir quelque chose qui va sortir de bon.
On pense que la guerre aux syndicats va être payante parce que moi, François Legault n'utilise même pas le mot fédération, il utilise le mot syndicat lorsqu'il parle
oui.
des médecins.
Moi, je lance la balle, ta question est excellente. Moi, je lance la balle aux députés de la CAQ. Aux députés de la CAQ, les simples députés, les backbenchers, qui ont quand même prêté serment sous leur honneur, qui allaient superviser le travail du gouvernement. Ils ne travaillent pas pour François Legault, ils travaillent pour les gens qui les ont élus. Est-ce qu'ils ont lu la loi? Il y a 113 pages de modifications aux lois dans un système qui est déjà extrêmement compliqué. Venez pas me dire que depuis 9 heures du matin, ils l'ont lu puis ils l'ont compris.
Non, puis venez pas me dire non plus que c'était des négociations qui étaient ouvertes et de bonne foi si tu avais préparé déjà le 113 pages. Là.
Ouais, s'il y a des députés de la CAQ qui nous écoutent maintenant ou plus tard, ce que j'aimerais leur dire, c'est leur rappeler qu'ils travaillent pour les gens qui les ont élus, ils ont prêté serment. C'est dans la loi que c'est illégal de faire des pressions indues pour changer la façon qu'ils votent. Ils ont le droit de voter contre un projet de loi qui est proposé par le gouvernement. Et en termes démocratiques, c'est leur devoir de le faire s'ils ne sont pas convaincus que c'est une bonne loi. S'ils ne savent pas c'est quoi qu'il y a dans la loi, j'ai de la misère à croire qu'ils sont convaincus que c'est une bonne loi. On verra qu'est-ce que ça va valoir ce soir, leur serment et leur honneur.
Oui, parce que cette loi-là va impacter les gens que Marc Tanguay a parlé tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
L'opposition officielle libérale a un message pour toutes les Québécoises et Québécois et les patients, les 147 000 patients qui sont sur une liste d'attente pour avoir une chirurgie, les quelques 500 patients qui attendent une intervention chirurgicale en oncologie et qui sont hors délai plus de 57 jours. Leur dire que l'espoir va revenir, L'opposition officielle libérale va siéger dans les prochaines heures pour limiter les dégâts d'un mauvais gouvernement qui agit sans écouter personne. Et dans un an, on pourra les remplacer, Madame la Présidente. Dors, la caisse!
Il y a deux choses dans cet extrait-là. Il y a les patients qui font partie de toutes les régions du Québec. Et comme la CAQ est en majorité, bien, il y a beaucoup de patients qui se retrouvent sous l'aile d'un député de la CAQ. Donc, comme tu le disais, j'appelle aux gens de la CAQ à penser aux patients. Et il y a la fin avec dehors la CAQ, parce qu'il ne faut pas oublier, il reste un an à la CAQ. Ouais. C'est impossible que ça revire de bord. Là.
Ben, un an, c'est deux éternités en politique. L'impossible, c'est tough.
Ouais.
Mais ça augure mal. Puis je veux dire, s'il y a des députés de la CAQ qui regardent les sondages maintenant et qui se demandent pourquoi est-ce que les sondages montrent qu'ils vont probablement tous être battus aux prochaines élections, ben, je veux dire, quand tu te lèves le matin, tu te fais imposer un projet de loi de 150 pages que tu n'as pas le temps de lire, puis ton boss dit « vote pour, asseoir », puis tu dis « oui, chef », ben, c'est peut-être pour ça que tes électeurs ont plus confiance en toi.
Exactement. Joël qui nous écrit qu'il a vécu la même chose dans la construction. Donc, une loi spéciale qui l'a forcé à revenir au travail, qui pourrait avoir un ticket. Jeff qui demande, est-ce moi qui se trompe ou le salaire des médecins en Europe est beaucoup plus bas que celui au Québec? T'as-tu cette donnée-là, toi, Fernel?
Je n'ai pas la donnée exacte, mais oui, c'est vrai. Oui. Les médecins, les salaires sont plus bas en Europe. Faut dire que, je veux dire, eux ne sont pas collés aux États-Unis où c'est le libre marché qui fait exploser les salaires des médecins. Mais oui, les salaires ne sont pas aussi élevés. C'est une structure qui est différente. Là, tous les pays sont différents aussi, mais une des différences importantes, c'est que les médecins sont essentiellement des employés dans plusieurs pays européens. Ce n'est pas des travailleurs autonomes qui sont payés à l'acte. Il y a toutes sortes de lourdeurs administratives qu'on peut enlever aussi. Et il y a un accès à la profession qui est peut-être un peu plus facile.
Il y a quelque chose, une petite parenthèse moi, que je voudrais ajouter dans ce débat-là. Puis il est somme toute assez tard. Là, on est rendu à loi spéciale et tout ça. Ça sera voté ce soir. Mais je ne comprends pas pourquoi on n'entendait pas plus, et c'est sûrement une question syndicale encore, c'est toujours des représentants, des porte-parole, mais les médecins, mis à part, à chaque fois, venir taper sa tête de tous ceux qui commentent l'actualité ou qui commentaient les dossiers, on n'a pas eu de table ronde où on comprenait de façon humaine c'est quoi leur problématique. J'ai trouvé aujourd'hui un spotted où certains commençaient à se prononcer, puis ça humanise beaucoup la chose. Puis ça, je trouvais ça enfin intéressant. Encore là, je ne veux pas mettre du poids dans une partie ou une autre, mais l'important, c'est qu'à un moment donné, on sache ce qui se passe pour vrai dans l'industrie. Ben là, dans ce moment-là, c'est en santé. Ça s'appelle Spotted Soigné au Québec. Puis il y en a plusieurs qui commencent à se prononcer sur leur réalité. Puis ça, moi, je le trouve intéressant. Parce qu'effectivement, on peut avoir un genre de petit stéréotype de dire ben, ces gens-là sont hautement payés. Ils ont, oui, étudié pour. Ils ont une job exigeante. Mais quand même, ça va suffire. Là. On se rappelle, et ça a marqué nos esprits, le bonus sur la chemise, hein, sur l'habillement là, d'un médecin. Si tu mets ce dont tu es supposé porter pour travailler, on te donne une prime ou une prime pour arriver à l'heure ou une prime pour... Ça avait marqué les esprits dans l'air Barrette, Gaétan Barrette. Mais honnêtement, on n'a jamais les deux côtés de la médaille par le syndicat qui, entre les deux, essaie un peu d'être le porte-parole d'eux. Puis on oublie, comme dans la grève des enseignants, qu'est-ce qui se passe réellement dans les classes ou dans les salles d'opération ou encore dans les salles de médecine, par exemple. Puis on se dirige directement dans un mur où les gens n'auront plus envie de travailler au Québec. Puis ça, je pense que c'est la grosse perte.
Ouais, ben tu peux pas forcer les gens à travailler. Fondamentalement, il faut avoir des incitatifs. Je pense que les médecins présentement souffrent peut-être d'un déficit de capital de sympathie au Québec. Puis ça, c'est peut-être leur responsabilité à eux. Je veux dire, c'est un groupe de personnes qui a historiquement été très proche du pouvoir, alors qu'ils n'avaient pas besoin de l'appui du public.
Et ils se sont toujours montrés très fermés aussi à la négociation. Là, on se le cachera pas. Là.
Mais malgré ce déficit en sympathie-là, je veux dire, je parlais à des amis médecins, entre autres, hier, ce matin, qui me demandait qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça. Et tu sais, oui, ils sont très bien payés. On a parlé comparativement à l'Europe, mais ils sont des travailleurs autonomes. Alors, leur salaire, tu sais, les chiffres qu'on voit prend pas en compte tous les frais qu'ils sont obligés de payer eux-mêmes.
Oui, exactement. Des frais, bien, ceux qui sont en clinique ont des frais, évidemment, de locaux. Ils sont obligés de payer leur staff, c'est ça. Bon, on veut pas... Ils n'ont pas de fonds de pension, ils n'ont pas d'assurance collective.
C'est
donc,
ça.
C'est des choses qu'il faut qu'ils se munissent à même leur salaire.
C'est pas juste de rencontrer le patient. Là. Des fois, c'est décrit là, le temps clinique avec les patients, les rencontres avec les familles, les laboratoires, les appels, les rapports de radiologie, l'enseignement aux étudiants, aux externes, aux résidents pour certains, les formulaires à compléter, les milliers de courriels, les comités obligatoires, la formation continue obligatoire, les réunions de département, les réunions scientifiques, Alouette.
Oui, alors, tu sais, soyons clairs, les médecins sont bien payés. Là. C'est correct.
On ne dit pas du tout le contraire.
Quand on voit les les chiffres dans les médias du 500, 600 000 pour un médecin spécialiste, ça, c'est pas ce qui rentre dans sa poche à la fin de l'année. Là. Ça, c'est ses revenus bruts duquel il doit payer beaucoup, des centaines de milliers à toutes sortes de frais administratifs ici et là. Et je pense qu'il y a probablement un travail pédagogique à faire du côté des médecins, justement, à aller parler au peuple directement, expliquer leur point de vue, leur réalité à eux, pour essayer de regagner un peu du capital de sympathie qu'ils ont peut-être négligé, qui mène à des situations où on trouve...
En effet, parce qu'on a un excellent texto de Johnny qui est rentré là-dessus, puis c'est exactement ça. Il dit, ben voyons, ils se plaignent de travailler de nuit, ils se plaignent de travailler de fin de semaine. Il y en a plein dans la société qui travaillent comme ça, puis ils n'en font pas un cheval de bataille comme ça. Alors, en effet, là, au niveau du capital de sympathie... Hey, Farnell, on a une loi spéciale ici au Québec, très autoritaire envers nos médecins. Puis on a un président aux États-Unis, lui, qui envoie la garde nationale partout. Ouais. Fait qu'on va passer d'un régime autoritaire à un autre. Non, c'est une blague.
Ben, tu blagues, mais disons que c'est des directions assez autoritaires, ce qu'on est en train de vivre présentement.
Exactement.
Oui.
Bon, Doug Ford vient défriter carrément Donald Trump. On écoute la publicité.
When someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. But over the long run, such trade barriers hurt every American worker and consumer. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. Then the worst happens.
Market shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. Throughout the world, there's a growing realization that the weight of prosperity for all nations is rejecting protectionist legislation and promoting fair and free competition. America's jobs and growth are at stake. Alors, Doug Ford a utilisé l'ancien président des États-Unis, Ronald Reagan, pour faire une publicité du gouvernement ontarien contre les tarifs américains. Et il a décidé de jouer ça sur les réseaux de télé américains, notamment lors du 7e match de la finale de la Ligue américaine entre les Jays de Toronto et les Mariners de Seattle. Et là, quand Donald Trump a vu ça, il a dit « Assez, c'est assez. Le Canada, on met fin aux négociations. Vous n'êtes plus nos amis. » T'en penses quoi?
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Donald Trump se revendique de la même trempe que Ronald Reagan.
Ouais.
Il aspire à ce genre de stature-là. Alors, rappeler les mots de Ronald Reagan à Donald Trump d'une façon que ça ne pourrait pas être plus clair que Ronald Reagan se serait opposé aux politiques tarifaires de Trump, je comprends que ça lui fait mal. Et il y a pas de réponse possible. Tu peux pas dire « Ah non, c'est pas ça qu'il voulait dire. » Je suis allé écouter le discours original de 1987 de Ronald Reagan. C'était dans le contexte où Ronald Reagan annonçait des tarifs contre le Japon en lien avec l'échange de semi-conducteurs. Mais il disait « Je ne veux pas mettre des tarifs. Je les mets de façon très précise et ciblée contre le Japon parce que le Japon n'est pas en train de respecter ses ententes avec nous. On veut les enlever dès que possible. Les tarifs, ce n'est pas bon pour l'économie. »
Mais Donald Trump, Farnell, c'est ciblé.
Ouais, ben c'est sûr, si tu cibles tout le monde, c'est ciblé.
Ouais, bien non, mais c'est ciblé. Un matin, il n'en met pas, puis l'autre matin, il se dit, voilà, 15%.
Ben,
c'est ciblé,
ouais,
ça.
J'ai pas l'impression que c'est tant ciblé que ça, là. Et ouais, alors, Donald Trump qui écoute ça, il est fâché, puis là, disons-le, c'est pas la première fois que le gouvernement Ford fait ce genre de choses-là. Il avait fait des publicités aussi dans le passé, avant que Mark Carney commence à essayer de rallier les troupes derrière une espèce de front de négociation. Faut croire que soit le front a brisé et Doug Ford a décidé d'agir seul, ou il y a peut-être quelque chose qui se passe, mais Donald Trump l'a clairement mal pris et il a répondu comme un enfant qui fait une crise de nerfs. Là.
La suite, est-ce qu'on est capable de l'anticiper ou justement parce que c'est Trump, ça sera un peu difficile?
C'est jamais possible de savoir est-ce que c'est juste un prétexte pour lui de mettre un peu plus de pression dans les négociations. On sait que Donald Trump est quelqu'un qui aime négocier sur la place publique et qui aime négocier en maniant la place publique comme un outil de négociation. Alors, est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une posture? Est-ce que c'est sérieux? On n'a aucune façon de le savoir et j'irai pas spéculer là-dedans. Il faut arrêter de capoter chaque fois que Donald Trump dit ou fait quelque chose de capoté parce que la moitié du temps, c'est une stratégie interne. Puis l'autre moitié, je pense que c'est des poules qui courent sans tête.
On lui donne un peu ce qu'il veut. En plus, quand on donne l'attention à Donald Trump, j'ai l'impression que là, on peut faire peut-être une corrélation avec l'attention qu'on donne à un jeune quand il fait une crise.
Oui, et la dernière fois que Donald Trump a fait ce genre de petite crise-là en disant « j'aime pas ça, alors je mets fin aux négociations avec le Canada », c'était en lien avec le régime de taxes sur, entre autres, Netflix, le numérique en général, et le gouvernement Carney a retiré ces taxes-là. Alors, peut-être que M. Trump espère avoir une espèce de réaction similaire, mais je vois mal comment on peut retirer l'existence des paroles de Ronald Reagan de l'histoire.
Sans surprise, Mark Carney est sorti. Il a dit « on va être prêt à se rasseoir avec les Américains quand ils seront prêts, tenter de tempérer la situation ». Mais entre Mark Carney et Doug Ford, aujourd'hui, il va se passer quoi, tu penses?
Moi, je doute que Mark Carney n'a pas été mis au vent de cette chose-là à l'avance. Je sais, j'imagine qu'il était peut-être pas favorable, mais j'ai l'impression que cette discussion-là va pas avoir lieu aujourd'hui. Elle a probablement eu lieu hier ou avant-hier.
Elle avait déjà eu lieu.
Probablement. Puis là, ils vont juste dire, bon, ben OK, maintenant, on va gérer la suite des choses.
Mais dans ce cas-ci, je vais aller dans le complotisme. Est-ce que Mark Carney se sert de Doug Ford? Peut-être Doug Ford est plus mordant et plus offensif. Carney veut toujours rester dans les bonnes relations. Donc, est-ce qu'il sert de son poulain Doug Ford pour justement être plus agressif envers les Américains?
Ben, je suis pas dans le group chat des premiers ministres provinciaux et fédéraux, alors je sais pas. Je pense pas que ce serait le genre de stratégie qui serait utile. Si on voulait passer par des moyens un peu plus détournés, on passerait pas par un premier ministre d'une province. Ouais. On pourrait passer par une espèce de groupe d'intérêt quelconque aux États-Unis qui pourrait facilement passer le même message.
Je termine cette superbe chronique de Farnell Morisset avec Fred qui nous écrit « Ironiquement, Donald Trump prendrait certainement un Doug Ford dans ses rangs. »
Sûrement, oui. Il serait très content de l'avoir.
Pas mal convaincu qu'il ferait des bons amis à la Maison-Blanche. Farnell Morisset, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup. Tu es avec nous à chaque vendredi aux alentours de midi. Normalement, débat avec Lambert de Rainville, mais pour cette semaine, Lambert était absent. Fait qu'on se fait une belle chronique.
Je le salue puis je l'aime pareil, ouais. Lambert.
L'actualité nous a aidé à faire une bonne chronique, hein, Pascal Sévé. Qu'est-ce que t'en penses?
En même temps, j'ai l'impression que Farnell pourrait parler de n'importe quoi.
Oui, Farnell est toujours très... Suivez-le sur les médias sociaux. C'est le meilleur.
T'es-tu un vrai ingénieur, toi, par exemple?
Oui, moi je confirme, okay. Je suis membre de l'Ordre des ingénieurs.
OK, mais attends, justement, on va finir là-dessus, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça pendant la campagne électorale.
Elle est habituée à moi, là. Ouais. Moi, là, je suis pas un philosophe, je suis pas un poète, là, je suis pas un grand littérature, là. Moi, je suis ingénieur, je suis gestionnaire, t'es un gars de chiffres. Bien, je veux vous rappeler, je suis ingénieur. J'ai une maîtrise en génie, en passant. J'ai une maîtrise en gestion. J'ai géré des projets dans ma vie. Donc, l'aspect ingénierie, j'ai quand même la facilité à voir, à comprendre.
Farnell, c'est quoi la différence entre toi et Sam Ahmad? Il est ingénieur, viens de nous le dire deux fois.
Ben, contrairement à Sam Ahmad, moi, je suis inscrit au rôle, je suis inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs du Québec. D'accord. Je paye mes cotisations, je remplis mes obligations à chaque année. Monsieur Ahmad ne fait plus ça depuis 2014, si j'ai bien compris. Alors, ce qu'il a dit, c'est contraire aux obligations légales et aux limites légales de ce qui peut être dit et affirmé par des gens qui ne sont pas des ingénieurs.
Personnellement, qualifiés. Ça te dérange-tu quand il est ingénieur et il ne paye pas sa cotisation?
Qu'il paye pas sa cotisation, ça me dérange pas tant. Ce qui me dérange, c'est qu'il laisse croire aux gens qu'il a des compétences légales en ingénierie qu'il n'a pas. Et puis ça, je veux dire, ça, c'est pas quelque chose que l'Ordre des ingénieurs fait juste pour se protéger puis contrôler le marché. Il y a des raisons pour ça. C'est parce que, je veux dire, le travail d'un ingénieur met le public en danger si c'est mal fait. Alors, il faut s'assurer que tout le monde qui exerce cette profession-là et qui réclame la crédibilité associée ait réellement les compétences pour le faire. Puis ça veut pas juste dire « je comprends qu'il y a une maîtrise, bravo pour lui », mais il y a des obligations additionnelles, il y a des obligations déontologiques, il y a des obligations de responsabilité professionnelle, il y a des obligations de formation continue, toutes ces choses-là. Je sais pas si M. Ahmad a suivi les formations continues de façon purement bénévole, ça se peut bien, mais si on n'a pas l'assurance à l'intérieur d'un autre professionnel qui l'a fait ça, ça pourrait potentiellement induire le public en erreur et même potentiellement mettre le public en danger.
Pour le public, des fois, ça semble un peu sévère, hein, ces ordres-là, de ce qu'on peut dire ou pas, quand il y a eu réellement études, puis il y a vraiment diplôme là-dedans, le fait de ne pas cotiser à un ordre qui régit la profession.
Ouais.
Peut-être que pour nous, ça peut sembler parfois un petit peu intense, là, les chicanes autour de ça.
Ouais, puis tu sais, je rappelle toujours, tu sais, moi, quand je dis que je suis avocat, je précise toujours que je suis avocat à New York, parce que je ne suis pas membre du barreau du Québec, qui est une situation très similaire. Je n'ai pas les qualifications légales au Québec pour donner des avis juridiques, et donc la loi ne me permet pas de sous-entendre que j'ai cette capacité-là. C'est pour ça que que je le dis. Je peux faire ça pour me péter les bretelles. C'est parce que je le sais puis je le comprends et je pense que c'est très important pour la société qu'on ait des ordres professionnels qui protègent le public de cette façon-là. Mais M. Hamad a été membre du conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs pendant presque 10 ans.
Oui, d'ailleurs, Carl nous écrit ça justement.
Il ne peut pas plaider l'ignorance. Il était parmi ceux qui étaient chargés d'appliquer cette
donc,
règle-là.
Donc, il était parmi ceux qui se plaignaient des autres qui disaient « je suis ingénieur » qu'il ne l'était pas.
Entre
c'est ça
que tu es
en train de me dire.
Ben oui, une partie de la responsabilité de l'Ordre des ingénieurs, c'est de protéger le public contre ouais. de l'exercice et de l'usurpation, c'est-à-dire de gens qui se donnent le titre d'ingénieur quand ils n'ont pas les qualifications légales. Mm-hmm. C'était son travail en tant qu'un membre du comité du conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs de faire ça. Alors, il le sait. Lui, plus que presque n'importe quel autre ingénieur professionnel au Québec, devrait comprendre l'importance de respecter le titre professionnel ouais. et pas induire le public en erreur là-dessus. Je trouve ça, sincèrement, en tant que membre de l'Ordre des ingénieurs qui continue à remplir ses obligations, je trouve ça un peu choquant.
Farnell Morissette, tu as toujours le mot exact pour nous. Merci encore de ta présence. On prend encore parler avec Farnell pendant 2 heures, mais on a d'autres invités, Pascal. Fait qu'il faut arrêter. On n'a pas le choix. En fait, t'es d'accord?
Oui, bonne fin de semaine d'automne, Farnell.
Merci.
Repose-toi.
Ben,
et en passant, t'es vraiment avocat à New York. Fait que le jour où quelqu'un dit tu te pètes les bretelles là-dessus,
ouais,
je dis, moi, ça me dérange ouais. dans la vie. C'est ma petite parenthèse.
Ben, c'est une belle parenthèse.
Fais. Peux-tu être fier? Ben, oui. Peux-tu le dire?
Ouais, ben, tu sais, mais je le dis aussi par énorme respect que j'ai pour le barreau du Québec qui fait un très bon travail et qui doit protéger le public et je ne veux pas me prétendre être capable de mener des actes que j'ai pas les qualifications légales.
Comment il est humble? Il est ingénieur, il est avocat à New York, puis il est humble.
Et puis en passant, je trouve ça drôle parce que ça m'a mal qui dit qu'il est pas philosophe. Moi, j'ai une maîtrise en philosophie aussi. Je dis ça de même.
Il y a tout, Farnell. Pourquoi je suis pas Farnell, Maurice?
Moi, je commence à douter de la personne. Là.
Hey, alors, suivez-le sur TikTok.
On a-tu un Apollo? On
ouais,
a-tu
Suivez-le sur TikTok, Farnell Morissette, meilleur vulgarisateur de l'actualité. Courte pause
attends,
à l'émission.
Attends. Je sais que tu finissais, mais c'est parce que ma référence à Apollo, il y a eu d'autres choses dans l'actualité qui me dérangent. Je voulais parler, ça invente-tu quelque chose, puis on va savoir que dans un couple d'années, c'était pas vrai pour faire. Mais je veux pas prendre Apollo. Pas j'avais pas le choix de revenir, j'ai les oreilles rouges.
Je vous amène mon diplôme la semaine prochaine si vous voulez, vous pouvez voir.
Farnell Morissette est vraiment le meilleur. Courte pause à l'émission d'Enchance. Par la suite, c'est le conseiller municipal de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, conseiller pour un municipal de Sainte-Thérèse-de-Lisieux jusqu'au 2 novembre prochain. Jean-François Gosselin qui vient s'asseoir avec nous. Lettre ouverte dans les médias hier pour demander une majorité à Bruno Marchand. On va tenter de comprendre le tout avec lui dans quelques instants à l'émission On en jase sur Boulevard 101.
Jusqu'à 14h, on en jase.
C'est le week-end parfait pour faire ça. D'abord parce que l'hiver vient, on se le cachera pas, nous, au Québec, mais surtout parce que vous n'allez pas vous les geler à le faire en fin de semaine. C'est quoi? C'est l'entretien de l'auto, en fait. Vu que la saison hivernale s'en vient, faut visiter pièces d'auto économiques. Puis ils savent que vous y allez en grand nombre à cette période-ci de l'année. Puis eux ont décidé, bien, puisque vous êtes en grand nombre, de faire des rabais. C'est le leader au Québec pour les pièces d'auto et accessoires. Chez pièces d'auto économiques, c'est Martin. Martin qui travaille extrêmement fort avec toute son équipe, certains membres de sa famille aussi, pour vous dénicher les meilleures marques. On a plus de 20 marques de pneus, d'essuie-glaces, de batteries, d'alternateurs en ce moment pour l'entretien de votre véhicule. Ça veut dire quoi? 9 magasins partout au Québec, un site transactionnel. Et quand je vous parlais de rabais, ben c'est maintenant, jusqu'au 31 octobre. On est le 24, il reste quelques jours. Vous économisez gros chez pièces d'auto économiques. Sur quoi? Ben, entre autres, sur les disques de frein de première qualité Brake Max. Ça, c'est à forte teneur en carbone, donc freinage plus en douceur, 10 % de rabais. Sinon, plaquettes de frein Bosch 15 % de rabais, 15 % aussi sur les essuie-glaces Bosch. Alors, faut pas attendre la dernière minute, c'est maintenant pour la mise au point de ton véhicule. Et les rabais, c'est aussi maintenant, jusqu'au 31 octobre. Pièces auto-économiques, c'est des grandes marques, des pièces neuves, garanties et les meilleurs prix. En ligne au pièceséconomique.com ou encore en succursale, tape ça sur ton GPS. Il y a 9 magasins partout au Québec.
Ben oui, on jase sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est votre émission du midi. On en jase avec Jeff Fortin et Pascal CV. Émission de midi à 14h du lundi au vendredi. Hey, là, Pascal, je vais te prendre au dépourvu. Là. La fin de semaine, là, c'est malade à Boulevard. Hein?
Ben oui, on a une belle programmation. Puis honnêtement, si ça vous tente de prendre une petite pause de politique, on vous l'offre aussi. Parce que ce sont les meilleurs de la boîte pour vous présenter de la musique la fin de semaine. Entre autres, ben, le Garage à Dan. Moi, c'est une de mes émissions musicales préférées.
Ben, je vais te dire que c'est pas mal ma top 1
ouais,
moi aussi.
Hein? On s'en va des années 70, 80, 90. En fait, les vieux hits là, dès 18h. le vendredi, en fait, jusqu'au mm-hmm. dimanche. Sinon, samedi, dimanche, dès 7h, le Rock and Chill d'Audrey Pinchot. Oui. Les classiques, mais un peu acoustiques, calmes, on se réveille
café,
tranquillement.
Le petit café, il y a soleil en plus en fin de semaine. On va avoir les petits rayons de soleil, le petit café, Rock and Chill. Wow.
Après, Colosse, Dan pour le Boulevard du Rock. Puis samedi, dimanche aussi, à 15h, on a le Rack à Mat par Matt Marcotte, un incontournable.
OK, la programmation Boulevard, la fin de semaine comme la semaine, elle est tout simplement exceptionnelle. En studio avec nous, conseiller municipal de Sainte-Thérèse-de-Lisieux jusqu'au 2 novembre prochain parce qu'il a décidé de ne pas se représenter en politique. Jean-François Gosselin, comment ça va, Jeff?
Ça va très bien, merci.
Cool.
Pourquoi?
Ouais, pourquoi ça va
pourquoi?
Bien? C'est-tu parce que t'es
on
pas
est
en campagne
surpris
électorale?
Quelqu'un ne souhaite pas faire de la politique en ce moment. C'est spécial.
Ah, disons que...
Pas de langage de politicien, tu sors.
Non, je t'ai rendu là. C'est ça, exactement. J'ai
les vraies affaires.
J'ai plus de cassette.
Ouais, c'est ça.
Non, je t'ai rendu là. Je le sens. Puis ça me permet aussi, je cacherai pas que je fais du porte-à-porte. Là. Je vais voir les citoyens. Puis c'est comme une genre de dernière tournée.
Ouais.
Puis, c'est plaisant. C'est vraiment plaisant.
Mais est-ce que les gens te remercient pour ton passage de 8 ans à l'Hôtel de Ville?
Ouais. Puis ça fait du bien, ça.
Mais ça n'a pas été facile. Ouais. Ça a été... Salut, on ne te connaît pas trop en politique. T'es arrivé, moi, je couvrais déjà le terrain à ce moment-là lors de ton arrivée en politique, Jean-François. Puis c'était beaucoup de chicanes avec Régis Labeaume. Après ça, bon, on t'a traité de girouette, de changer de parti pour un autre. Et là, tu quittes. C'était pas juste une free ride, comme on appelle.
Ben non. Mais la politique, c'est un sport extrême. Puis, non, je l'ai vécu comme ça. On l'a vécu en famille aussi. C'est toujours pas évident, mais c'est un beau métier. Oui, comme dans tous les métiers, dans toutes les professions, dans toutes les carrières, il y a des hauts puis il y a des bas, des bons puis des moins bons côtés. Puis moi, je quitte pas parce que j'aime pas ça. Je quitte parce que je veux aller faire autre chose, puis je veux laisser la place à la relève. Puis c'est jamais l'unanimité non plus en politique. On s'attend pas d'avoir 100% des votes. Puis là, je vous dirais que je suis prêt à passer à autre chose.
Mais est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi difficile? Parce qu'il y a des commentaires qui sont très, très violents. Ouais. C'est difficile pour l'entourage. Puis, tu sais, on voit la campagne actuelle, on l'a dit hargneuse, mais elle est aussi très désagréable pour les citoyens. Puis, je parle pour tout le monde, peut-être qu'il y en a qui diraient que j'ai pas raison. Mais...
Ouais, non, c'est lourd. C'est très lourd ce qui se passe présentement. Mais moi, j'ai été député de l'ADQ dans le temps. Puis, j'étais derrière Mario Dumont. Puis, je peux vous dire une chose, Mario Dumont, là, il subissait les périodes de questions des journalistes qu'il.
Bon, ouais, c'est le petit nouveau qui arrivait, puis on le testait.
Ben, qui ne lâchait pas, puis qui était très dur avec lui. Les caricatures aussi, je me souviens, mm-hmm. là, était très, très, très dur envers Mario Dumont. Donc, moi, je me souvenais de ça, puis je savais dans quoi je m'embarquais en politique. Puis tout est relatif dans la vie. Quand je compare au traitement que Mario subissait quand j'étais avec lui, ben je me désole, puis je me dis, ben moi aussi, ça fait partie de la game. Faut comprendre. Là. J'ai une bonne conversation de m'en aller avec mes parents, parce que mon père, c'est un ancien boxeur. Puis mon père dit, puis comment ça va? Puis ça, je dis, hey, là, père, arrête ça. Je dis, quand tu montais dans le ring, là, tu donnais des coups, puis t'en recevais aussi. Hein? Ben, la politique, c'est pareil.
C'est pareil. Tu me surprends en 2023 en joignant les rangs de l'équipe Québec Fort et Fier de Bruno Marchand parce que tu t'étais toujours opposé au projet de tramway. Et là, t'avoues que tu me surprends en crime hier quand tu as écrit ta lettre ouverte dans les médias en disant, ça prend une majorité pour Bruno Marchand. Explique-nous ça, parce que je vais t'avouer que j'ai fait Jeff Gosselin, qui était contre le tramway, va majoritaire à Bruno Marchand, qui veut faire le tramway. Je comprenais pas trop, là.
OK. C'est la première des choses, le tramway, c'est rendu un projet provincial. OK? C'est mm-hmm. dans le cours du gouvernement du Québec qui l'a confié à CDPQ Infra.
Fait
donc...
que pour toi, le tramway, c'est réglé, il va se faire.
Bien, c'est réglé. C'est dans le cours du provincial.
OK.
Bon, OK. Dirigez vos questions, là. Troisième lien, c'est la même affaire. L'itinérance, le logement. Moi, je regarde les gros enjeux à Québec, les gros défis auxquels on fait face. Puis, lorsque j'ai décidé d'écrire ma lettre ouverte cette semaine, c'est que je regarde une vision plus macro là, des choses. Puis, le maire de Québec, là, que ce soit Bruno Marchand ou quand c'était Régis Labeaume, ça nous prend un maire qui est fort. Un maire qui est capable d'aller voir le gouvernement du Québec puis de faire des revendications puis d'aller faire des gains pour la capitale nationale. On est la capitale du Québec, après tout. Même chose lorsqu'il doit parler avec le premier ministre du Canada, Mark Carney. Avec l'incertitude économique aussi là, qui plane au-dessus de nos têtes, là, avec tout ce qui se passe au-dessus de la frontière là, avec Donald Trump, qui est très imprévisible. Moi, je regarde ça aller puis je me dis, là, ça nous prend un maire qui est fort, qui est capable d'aller voir le gouvernement du Québec lorsque c'est le temps d'ailleurs, pour parler d'itinérance, par exemple, là, qui est une, mm-hmm. qui est une compétence, qui est un problème provincial, mais que la ville de Québec subit, là, comme toutes les grandes villes. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire cette lettre-là. C'était pas contre les adversaires à la mairie, contre le maire Marchand. Là. C'était pas contre eux. C'est vraiment pour dire ça, faut se rassembler derrière notre maire.
Mais toi, ton choix, c'est Bruno Marchand?
Ben oui, sans équivoque. Là.
On peut-tu s'en reparler après les élections, quand tu vas avoir quitté la politique? Parce que demander un maire fort en ce moment, assurément, dans le parti, c'est dur de dire que ce ne sera pas Bruno Marchand, mais c'est difficile dans le contexte. Puis Québec, tous les politiciens nous le disent, qu'il faut être particulièrement fort, parce qu'on est souvent le petit frère gossant là, au provincial, là, qui demande, mais on va ailleurs dans la province, habituellement souvent vers Montréal, pour faire avancer des projets. Est-ce qu'on est assez fort à Québec depuis quelques années, depuis le départ de Régis Labeaume?
Bien, il faut l'être fort, c'est ça mon point. Puis Régis Labeaume était fort à Québec. Lorsque le Régis Labeaume, je me souviens, j'ai eu une conversation avec Jean Charest là-dessus, il disait quand je voyais à mon agenda que j'avais Régis Labeaume, j'avais hâte de le rencontrer parce que je savais qu'il m'arriverait avec des projets, puis je savais aussi que son conseil municipal était derrière lui puis qu'il pouvait faire avancer les choses. Moi, dans les deux dernières années, lorsque j'ai joint le parti du maire, puis que je voulais être à temps plein là, dans mes fonctions là, de responsable des loisirs, des sports des loisirs, bien, c'est pour ça que je l'ai fait aussi, pour pouvoir travailler, pouvoir être autour de la table des discussions. Puis lorsque c'était le temps d'aller chercher, par exemple, là, les mondiaux juniors de hockey, puis les mondiaux féminins aussi pour Québec, bien, en étant majoritaire, on savait qu'on était capable de travailler, puis de travailler avec Martin Tremblay de Québécois, travailler avec le gouvernement du Québec.
Honnêtement, est-ce que c'était plus une décision pour continuer de travailler en politique puis faire avancer des dossiers, ou c'était plus une décision pour être dans l'équipe de Bruno Marchand?
Moi, je voulais faire avancer des dossiers, faire avancer des projets. Puis lorsque j'étais déjà sur le comité exécutif. Donc moi, c'est pas comme si j'ai eu des augmentations, mais beaucoup des augmentations de tâches, là, on va le dire comme ça, quand j'ai joint l'équipe. Là, je suis devenu à temps plein sur le comité exécutif. Puis c'était pour être en mesure de travailler avec l'administration, avec les partenaires aussi de la Ville de Québec pour faire avancer les dossiers, les événements.
Ça a été
comme
difficile? Est-ce que tu as senti que tu te pilais dessus un peu?
Non, au contraire. Les deux dernières années, ça aurait été les deux plus belles années de ma carrière politique où ce que j'ai été en mesure de vraiment faire avancer des beaux dossiers comme, là, je parlais des mondiaux juniors, le stade Canac, les patinoires extérieures. C'est comme ça que j'aime travailler. Puis on n'est pas toujours d'accord là, avec le maire aussi, avec l'équipe du maire, mais c'est ça que j'aime, la dynamique dans le Québec fort et fier. C'est une coalition de gens qui ne pensent pas toujours de la même façon, mais on se parle, puis ouais. On avance dans la même direction.
Mis à part le tramway, quel dossier? Tu n'étais pas d'accord avec le maire ou que tu jasais puis tu disais, hey, écoute ça, me semble que c'est pas dans ma table.
Il n'y a personne qui écoute. Hein?
Non, il n'y a personne qui écoute.
Okay. On est entre nous.
Juste entre nous.
On est en train de prendre une petite bière.
Ça va être rediffusé plus tard?
Plus tard.
Au pire, on peut...
Si ça nous tente. On va faire
ça
comme tout le monde.
Ça se peut qu'on soit honnête ou pas.
On va faire comme tout le monde en parle dans le temps. On va faire un montage au lieu de le faire en direct.
OK. Les pistes cyclables.
Oui.
Ça, là... Quand je suis arrivé autour de la table, il y avait déjà beaucoup de projets de pistes cyclables.
Mm-hmm. Oui, 180 km, là, je me suis dit, ça avait été présenté.
Puis moi, oui, je suis pour les pistes cyclables, je ne suis pas un cycliste. Là. Je considère comme un automobiliste. Je me promène pas mal plus en automobile qu'à pied, qu'à mm-hmm. vélo. Bon. Puis là, je disais, de la façon que c'était amené, puis de la façon que c'était proposé par l'administration, là, dans les deux premières années de l'administration Marchand, c'était toujours... comme de la mobilité active. Puis là, il fallait quasiment se sentir mal si on prenait notre auto au lieu de prendre un vélo. Mais moi, dans Saint-Thérèse-de-Lisieux, dans le nord de Beauport, là, les citoyens, quand ils me demandent des pistes cyclables, là, c'est pas nécessairement pour l'environnement. Oui, c'est bon pour l'environnement, mais c'est pas une question de sécurité routière.
En effet.
La piste cyclable...
Boulevard Sainte-Thérèse, on est un bel exemple.
Exact. Puis sur Chemin-Sainte-Foy, c'était ça la raison première. Il y avait beaucoup d'accidents. Puis tout est dans la façon de l'amener. Puis là... Ça, c'est une des choses que je vous dirais qu'on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Puis là, dans la campagne, dans le porte-à-porte, on s'en fait énormément parler par les citoyens. Quand c'est positif envers le maire, oui, on aime le maire, la ville est belle, ça va bien, on continue de même. Mais quand on dit « qu'est-ce que vous avez à y reprocher? » Les pistes cyclables, ça revient souvent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté. Puis là, le maire Marchand, il a compris le message aussi. Ça, tout est dans la façon, puis aussi comment ça répond à un besoin. Puis d'être en mesure de l'expliquer aussi. Puis on parle des pistes cyclables, mais ça peut être... Parfois, c'est des trottoirs, des fois, qu'on vient planter dans certains secteurs, puis ça ne fait pas toujours l'affaire des gens. Mais bref.
Ben, je sais pas, celle, mettons, sur du Cénacle à Beauport, c'était particulier.
Ça, c'est le meilleur exemple. Ça, c'est le meilleur exemple parce que ça avait été présenté en arrondissement à Beauport, à la présidente, Mme Roy, puis à Stevens Melançon. Puis moi, j'étais allé aussi, puis j'avais dit, là, je suis pas sûr, là, ça me semble que ça a l'air bossé pas mal, puis ça recommence à ressembler à celle à Trois-Rivières.
Il me semble, c'est un drôle de. C'était bossé. Ouais.
Ben, c'est parce que, exact, puis c'était
pas
dans
mon. C'était un parcours de motocross.
C'était pas dans mon district. Puis là, le maire n'a jamais vu passer ce projet-là, mais là, Mme Roy a dit, non, on le fait, aller de l'avant, puis elle était d'accord, mais. Après ça, Mme Roy, c'était la première sur le terrain pour dire que ça va pas de bon sens. Mais,
je passe régulièrement là, puis en effet, ça n'a pas de bon sens.
Mais par contre, je dois dire, mon fils, mon plus jeune, va à Seigneurie.
Oui, oui.
Puis à tous les jours, je passe là. Je peux vous dire une chose, pour le volet sécurité, c'est réussi. Là.
Ça, c'est vrai.
Il y a des enfants, il y a quatre écoles dans le secteur, dont une secondaire.
Ouais, puis un parc, terrain de baseball, etc.
Puis
là,
les enfants avec leur sac école le matin, y en ont assez large. Puis pour le volet sécurité, c'est réussi. Mm-hmm. Mais le volet bossé, on n'est pas sûr.
En terminant, tu réponds quoi aux gens qui disent « Coudonc, crime, Jeff Gosselin, il fait du Maurice Duplessis, il dit voter du bon bord, tu sais? » Si je vote à Beauport, pas pour Bruno Marchand, puis j'ai un conseiller autre, là, mon district va-tu être sur pause pendant 4 ans?
Ben non, au contraire. Mais c'est la dynamique. Comme moi, à Beauport, là, j'avais les deux adversaires que j'avais. M. Mélenchon, on était ensemble là, avant, mais lui, il a décidé de quitter Québec 21. Puis là, à partir de ce moment-là, moi, ce que j'ai trouvé très déplorable, j'ai trouvé ça très difficile dans mes derniers 4 ans, c'est toutes les dérogations mineures. Ça, là, c'est un outil qu'on utilise, nous, comme conseillers municipaux, à l'arrondissement. On est capable de régler bien des problèmes avec ça, des fois des marges latérales, des marges frontales, peu importe, des cabanons qui sont un peu trop proches de la ligne, il manque un pied. On passe sans dérogation mineure, mais ça prend l'appui d'au moins un des deux autres à l'arrondissement. Ça prend une majorité. Puis là, moi, parce que j'avais mes deux adversaires qui étaient là, ils n'acceptaient pas de passer mes dérogations mineures. Puis ça, c'était difficile de travailler comme ça pour les citoyens. Donc, c'est un peu ça le message que je voulais lancer aussi aux citoyens de Beauport. Ils feront bien ce qu'ils voudront, là. L'important, c'est d'aller voter. Mais une chose est certaine, c'est que lorsqu'on est capable d'avoir, entre guillemets, le contrôle d'un arrondissement, là, c'est-à-dire quand on est dans notre parti puis on prend les décisions, c'est toujours plus facilitant. On n'a qu'à penser au dossier de l'Académie Saint-Louis aussi dans Vanier-les-Rivières où il y avait 3 élus de l'opposition. On n'était pas capable de le régler. On a fallu qu'on attende qu'eux autres essayent de le régler pour finalement intervenir au niveau du conseil municipal. Mais bref, mon message, c'était comme je l'ai dit tantôt, pour une vision plus macro. Là, moi, je pense que ça nous prend un maire qui est fort puis un maire qui est solide. Mais en même temps, je dis aux gens l'importance d'aller voter. Faites votre choix, puis peu importe votre choix, les gens après ça vont le respecter.
Jeff Gosselin, on te souhaite une bonne fin de carrière politique municipale. On se reparle après ta carrière. Peut-être que tu seras en mesure de critiquer un petit peu plus ce qui se fait à la ville, non? Tu veux pas jouer à Bellemare?
Non, je jouerai pas à
Bellemare. Tu veux pas jouer à Bellemare, Pascal? Ils ont bien plate.
Je pense que c'est une bonne décision.
Oui, mais Régis Labeaume me dit qu'il veut pas jouer à Bellemare, mais il a joué à Bellemare, à tout le monde en parle. Il est dans le retour de Gravel, d'ailleurs, à 16h tout à l'heure. Penses-tu qu'il va jouer à Bellemare?
On va certainement tenter de lui.
Je vais demander à Jeff, t'ennuies-tu de Régis?
J'ai eu beaucoup de plaisir avec M. Labeaume. Ouais.
Dans les joutes verbales, dans la joute politique?
Lui a eu moins de plaisir avec moi. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir.
Vous aviez l'air tanné, là, tout le monde à l'Hôtel de Ville à ce moment-là. Tout le monde avait l'air tanné. M. Laulier avait l'air tanné. Tout le monde était tanné. Là. Ouais. Il n'y avait plus de politique qui avançait tant que ça. Là.
Ben oui. Faut que ça soit intéressant un peu, les débats aussi.
Les débats doivent être intéressants, mais quand il y a du débat?
Ouais, on avait des bons débats avec M. Labeaume.
Cool. Merci beaucoup, Jean-François Gosselin. Merci de t'être présenté.
Si vous croisez en corridor, là, est-ce que vous allez vous serrer la main, Régis Labeaume?
Moi, j'essaie toujours de lui serrer la main, puis j'ai pas un haut taux de succès.
Non?
Non.
Il vous boude?
Ouais.
Ah, voulez-vous qu'on arrange ça? On va dire à Denis, là, quand vous croisez Jeff Gosselin, il faut que vous vous serrez en main.
Puis moi, je veux lui dire, M. Labeaume, j'ai toujours aimé. On était des adversaires, pas des ennemis.
C'est ça, des adversaires politiques. Ouais, il se fait un peu trop d'ennemis dans la campagne présentement, mais là, je parle pas de Régis Labeaume, là, entre les candidats à la mairie. Là. D'abord, moi, en tout cas, je dis ça de même, ou je le dis peut-être pas, mais il y en a deux qui s'aiment pas trop, je pense. Faites une petite chicane, là.
Si tu doutes, tu me surprends.
Peut-être, toi, viens-t'en, je vais t'offrir ça. Puis toi, t'sais, d'après moi, ils s'aiment plus, ces deux-là. Ils ont essayé de s'aimer, mais ils s'aiment plus.
On verra s'ils se serrent la main.
Je dis ça, puis je dis rien. Merci, Jeff Gosselin. On s'en parle bientôt.
Au plaisir.
Cool. On saute d'un sujet à l'autre, Pascal. Mais avant, parle-nous donc de NSPW.
Oui, on est fiers.
Généreuse.
On
Yannick
est fiers
Marceau.
De revenir avec ça, vraiment. C'est une belle promotion. Ben, je dirais même pas une promotion. En fait, c'est un événement spectaculaire. Yann a embarqué là-dedans l'année passée, puis c'était du point A au point Z que pour la bouchée généreuse. C'est tout le monde a embarqué parce que c'était la cause qu'on voulait soutenir. Puis la NSPW a toujours été derrière nous. On pensait que ça allait être une fois. Ben non, un autre gala. Luttons contre la faim. Donc, deuxième round du gala. Il va y avoir quelque chose de spectaculaire encore une fois. Donc, on lutte contre la faim au profit de la bouchée généreuse. C'est un organisme hyper important ici. Donc, 65 000 paniers alimentaires distribués chaque année à Québec. Près de 5 000 personnes qui sont nourries chaque semaine. 5 000, mm-hmm. dont 37 % qui sont des enfants. Jusqu'à 1 600 familles qui sont aidées chaque semaine uniquement avec la banque alimentaire. Donc, le 21 novembre, encerclez la date. C'est au Centre Horizon. Les billets sont en vente dès maintenant. Et comme on vous dit, c'est au profit de la bouchée généreuse. Tous les détails sont dans la section événements du blvd.fm pour faire un don, pour acheter vos places. Et là, il y a assurément du monde qui y participe. Donc, Marceau va lutter contre le Nightmare Manson que vous connaissez, le Aiden Bright que vous connaissez et Virginie Gagnon,
ben
personnalité
oui. J'ai vu sur les médias sociaux hier de l'entraînement de Virginie.
Hey, d'après moi, énervée, hein, Virginie. Elle est en forme, écoute, là. Marceau
Virginie,
va devoir se tenir.
Moi, j'ai fait un Irox avec Val, puis elle faisait un Irox avec un de ses amis, puis c'est parce que elle a le dos plus large que moi.
Ah, t'es impressionnante.
Elle
était impressionnante.
Oui, je vais te dire, l'enfant, quand je l'ai vue, elle est plus grande que moi, elle a le dos plus large que moi. C'est drôle parce que j'ai dit ça, puis je savais pas qu'elle allait faire un combat contre Marceau. J'ai dit à ma blonde, sais-tu quoi? Elle pourrait me sacrer une méchante volée.
Ouais, prends ton trou, comme on dit, Jean-François Fortin,
oh,
si jamais,
oui.
Parce qu'elle
oui,
va
puis là, je l'avais regardé,
affronter
dit,
Marceau.
Bonjour Virginie, moi c'est Jean-François.
Avec sa grande tignasse blonde, en dessous de ça se cache une tonne de briques. Puis ce sera contre Marceau, contre Stephen Sullivan, puis contre Michel Plante
ouais.
qu'elle va lutter.
Le champion de la NSPW qui vient à la rescousse de Marceau. On dirait que je trosse pas Marceau.
Là-dessus?
Ouais, on dirait que j'ai peur qu'il sorvire de bord. T'sais, c'était battu contre Sullivan
l'année
passée.
Moi, j'ai...
Prenne la ceinture de plante, coup de ceinture, puis il s'en va avec Nightmare Manson. On dirait qu'il ne trosse pas.
Au palais, j'espère qu'il ne fera pas ça.
Il arrive des affaires dans la lutte des
fois. Ouais, mais j'espère qu'il ne fera pas ça parce que c'est un peu dommage pour ceux
en
qui
effet.
Vont avoir pris son bord. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est connaissant Marceau, il dit j'ai gagné l'an dernier. J'ai pas tant besoin de me préparer.
Confiance, ouais. J'avoue que ça pourrait arriver.
Donc, 100% des ventes de billets s'est versé à la Fondation de la Bouchée Généreuse. On essaie de dépasser notre 20 000 de l'an passé. On vous attend le 21 novembre prochain. Les billets sont à vendre dès maintenant pour le gala. Luttons contre la faim au Centre Horizon.
Merci beaucoup, Pascal CV. Mathias Turcotte est avec nous en studio. Mathias a fait 2 points de presse. Bruno Marchand. Le docteur Amiot, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Mathias, merci pour cette belle matinée. Comment vas-tu, mon ami?
Ça va très bien. Ça roule, ça arrête pas.
C'est un doux vendredi. Oh, ah, c'est comme la cueillette de pommes, ce que tu as fait aujourd'hui.
Non, c'est ça. Tranquille, automnal, on prend... On relaxe. Non, ça roule. Puis ça roule parce que l'actualité roule. On est en campagne municipale, mais ça reste que... Le gros sujet aujourd'hui, ça reste la loi spéciale.
Clairement.
La loi... le projet de loi 106 qui est présentement passé à l'Assemblée nationale, qui va être passé sous ballon par le gouvernement Legault. Donc, ce projet de loi-là qui prévoit de lier une partie de la rémunération des médecins à des agents de performance. Donc, on parle de 10 % de la rémunération des médecins qui serait liée justement à la performance. Mm-hmm. Ça fait beaucoup de bruit parce que, bien sûr, les différentes fédérations des médecins sont contre.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est l'Association et la Fédération des médecins omnipraticiens qui ont pris la parole ce matin vers 10h30.
Dis-moi donc, on avait Martin Savard, un neurologue à l'hôpital L'Enfant-Jésus ce matin en entrevue dans Marceau le matin. C'est disponible sur le blvd.fm. Et Martin nous parlait de médecine fast-food. On a-tu parlé de ça avec les médecins omnipraticiens?
Forcément qu'on a parlé de ça. Puis d'ailleurs, certains médecins de famille ont été invités à prendre la parole pour justement parler de ce qui leur dérangeait du projet de loi sensible.
Ce n'est pas mon rôle comme médecin de famille, moi, de voir des patients à la chaîne. Et les patients ne seront pas bien servis. Et si le gouvernement s'imagine qu'avec une loi spéciale, du coup, tout le monde va avoir accès rapidement à un médecin de famille, je pense qu'il se trompe royalement et on va voir les impacts assez rapidement.
Puis me faire dire que j'ai 10 minutes pour évaluer tout et que ça soit jugé si je fais de la bonne ou de la mauvaise médecine... Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas pour mes patients. Ça m'intéresse pas pour ce que je fais depuis 26 ans. Moi, j'ai mes patients, c'est une qualité que j'ai avec eux. Si j'ai besoin de 20 minutes avec un patient, je vais le prendre.
Écoutez, la pratique de la médecine familiale puis de la médecine en général, c'est incompatible avec la productivité et le fast-food. Les patients, là, ce ne sont pas des canettes d'aluminium qu'on produit à la chaîne, là, dont on peut mesurer le taux de production à chaque mois. Chaque patient est unique.
Puis moi, c'est l'essentiel de ma pratique, avoir une qualité. Si j'ai 10 minutes puis que j'en ai assez pour régler un problème, ça me va. Puis l'autre chose aussi, dire à quelqu'un, je vais vous régler juste un problème, puis qu'il a fait 2 heures de route pour venir me voir, ça n'a pas de sens. Fait qu'il y a plein d'implications dans ce projet de loi-là. Mais c'est avant tout le soin des patients. C'est notre profession, c'est ça pourquoi on fait notre travail qui va être affecté.
Pascal, as-tu un médecin ou une médecin de famille?
Oui, mais elle va partir à la retraite l'an prochain, fait que je vais vraiment me retrouver là-dedans. J'ai l'impression que je vais pouvoir commenter les deux côtés de la médaille.
Ben, vraiment,
mais
parce que...
C'est une femme, là, Jeff, ouais. Là, qui doit être... Je veux pas la vieillir, mais assurément, elle est passée 70, OK? Puis, il y a plusieurs années, elle voulait arrêter. Mm-hmm. Son mari est décédé. Fait qu'elle s'est dit, ben moi, je vais continuer à aider mes patients. Puis, elle aurait dû arrêter il y a plusieurs années. Puis, parce qu'elle sentait que c'était tellement déchirant de quitter ses patients, elle a continué. Mais tu sais, à un moment donné, profiter de la vie, c'est pour tout le monde aussi. Là.
Mais tu vois, ton histoire, là, c'est ce qui me fâche dans l'approche du gouvernement, de dire les médecins ne travaillent pas, les médecins n'en font pas assez. Ça me fâche parce que ça, c'est une super belle histoire. Moi, c'est la même chose. Ma médecin de famille, moi, elle doit avoir à peu près fin quarantaine, OK? Mais moi, j'accepte d'attendre 1h30 dans la salle d'attente parce que je sais que quand je vais être dans son bureau,
elle
ça va être 45-50 minutes qu'elle va prendre le temps de m'évaluer. Vous le savez, tu sais, j'ai un passé en termes de dépression. Elle va prendre le temps de voir ma santé mentale, ma santé physique. Elle va faire tout ce qu'elle a à faire pour être sûr que quand je sors de son bureau, si j'ai des suivis à faire après ça avec d'autres spécialistes, je fais des suivis, mais surtout que je vais être en santé, que je vais bien.
C'est un bon point de dire. C'est vrai que souvent, on passe 45 minutes, une heure après parce que justement, ils prenaient le temps. Est-ce une histoire générationnelle aussi? Est-ce qu'on doit en vouloir aux nouveaux médecins qui veulent peut-être adapter leur façon de travailler? Mais il y a un questionnement assuré à se dire, est-ce que dans certains secteurs, oui, effectivement, il y a des fins de semaine, oui, effectivement, des soirs, et ça doit venir avec.
Oui, ça, c'est clair.
Je crois que ça, par contre, ça doit un petit peu faire partie de la médecine puis de ces corps de travail-là. Mais est-ce qu'on doit obliger ces gens-là à faire du 80, 70, 60, 50, même 40 heures semaine? Mm-hmm. Après, c'est un choix qui doit être conscient.
En plein ça, c'est un choix qui doit être conscient. Puis les gens ont le droit d'avoir une qualité de vie également. Mathias, j'imagine qu'on a parlé aussi de salaire parce que là, c'est beaucoup ressorti dans le gouvernement puis chez les chiffres. Les omnipraticiens veulent 30 % de plus. Les spécialistes veulent 17 % de plus. Puis si je me trompe pas, tu as parlé au docteur mieux par rapport à ça, à leur rémunération.
Oui, parce que présentement, il n'y a plus de négociation. Le projet de loi 106 est en train d'être passé. Puis Dr Amiot dit qu'il n'est pas trop tard pour aller en arbitrage, puis que si le gouvernement serait honnête, on ira en arbitrage parce que du côté de la Fédération des médecins omnipraticiens, on est prêt à écouter l'arbitrage. Puis si l'arbitrage dit « Vous êtes les médecins les mieux payés, au Canada, vous devez baisser de rémunération », bien, on serait prêt à le faire.
Si jamais, en arbitrage, on disait « Oui, effectivement, vous êtes les mieux payés », oui, on acceptera une diminution de rémunération. Mais devant un arbitre qui écoutera les arguments de part et d'autre. Alors, si le gouvernement était si confiant que ça, que ce qu'il avance est vrai, pourquoi aurait-il peur d'aller en arbitrage? Parce qu'il le sait très bien qu'il a tort et que tout son argumentaire de son projet de loi est bâti sur des fausses données, sur un château de cartes et que tout ça risque de s'écrouler. Le problème, qui va payer pour tout ça? C'est les patients québécois. Combien de temps ça va prendre avant que la CAQ ou que les politiciens réalisent de l'effet catastrophique de ce projet de loi-là, de l'effet dévastateur pour les Québécois de ce projet de loi-là? J'espère plus tôt que tard.
Ça me fait penser, Mathias, à notre conversation ce matin avec Martin Savard qui disait « Hey, pensez-vous vraiment qu'un chirurgien qui entre à l'hôpital puis qui dit « Bon, moi, aujourd'hui, ça me tente pas d'opérer. » S'il n'y a pas d'opération qui se fait, c'est parce qu'il n'y a pas de personnel de soutien, il n'y a pas de bloc opératoire disponible. J'imagine qu'on en a parlé dans la conférence.
Ah, c'est sûr qu'on en a parlé parce que, comme le docteur Amiot a dit, les médecins ne sont pas contre les objectifs, mais plutôt de lier la rémunération avec ces derniers.
On n'est pas contre ces objectifs-là, puis ce sont des objectifs louables qu'on souhaite tous atteindre. mais on n'a pas de contrôle sur tous les éléments qui nous permettent d'atteindre ces objectifs-là. Quand on fixe un objectif de performance et que j'ai du contrôle sur cet objectif-là, bien, ça, c'est une chose. Mais si je n'ai pas de contrôle, je n'ai pas les ressources pour effectuer ces visites-là. 25 % des ressources qui devaient être fournies de façon contractuelle dans les GMF ne sont pas fournies. Difficulté d'accès pour nos patients à des investigations, à des services de santé mentale, à des plateaux techniques, à des consultations spécialisées. Ça fait en sorte que l'atteinte de ces cibles-là, de ces objectifs-là, devient difficile et n'est pas seulement la responsabilité des médecins. Il y a d'autres facteurs qui impactent autour. Mais on est tous d'accord avec offrir davantage de services à la population. Dans un contexte, il faut être conscient du contexte et réaliste. Il y a une pénurie de 2000 médecins de famille au Québec.
Pascal, deux choses que je vois là-dedans dans le bras de fer qui se termine en loi spéciale. Premièrement, ceux qui en ont plein comme ta médecin de famille qui vont partir à la retraite, là,
ouais.
Vont dire hey, c'est assez, ciao, bye.
Ça, c'était pas une surprise pour le gouvernement. Là.
Ben,
tu peux calculer.
C'est ça. Puis deuxièmement, on va fixer des objectifs pour la rémunération, mais on n'améliorera pas assez les conditions. Fait que c'est une bataille éternelle qui va continuer. Tu sais, l'exemple que je viens de dire de Martin Savard ouais. Qui dit ben, écoutez, ben, on paierait, mais j'en ai pas de bloc opératoire de disponible.
Ça changera pas. Puis les conditions d'infirmiers, infirmières, les conditions des préposés, c'est une roue qui tourne.
Ben
on
oui.
Parle beaucoup des médecins, mais ils travaillent tous en étroite collaboration.
C'est moi qui se trompe ou on fait trop les affaires? On a fait les affaires à l'envers du côté du gouvernement. On aurait dû améliorer le système puis après ça, mettre des indicateurs de performance?
Écoute, c'est une bonne question. Est-ce que je suis prête à aller dans ce sens-là? Je le sais pas, mais je trouve assurément que, bon, peut-être que les médecins mettent un petit peu de pression pour régler leurs trucs en premier, mais je trouve qu'on travaille en silo. On travaille en silo.
Ah, c'est un bon point.
Les médecins. Les infirmiers et infirmières, puis les préposés aux bénéficiaires. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la santé travailler dans un tout, un ensemble.
Mathias, l'ambiance va être épouvantable. On doit être frustré du côté de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
Ah, on comprend pas du tout la position du gouvernement. Du moins, comment on explique, c'est que le gouvernement est dans une vision tunnel. On voit pas la réalité du terrain. On prend pas en compte la réalité du terrain. Puis on en a parlé des médecins qui vont partir à des retraites plus tôt que prévu. Ils l'ont dit aujourd'hui qu'il y en avait beaucoup, qu'ils ont répondu à leur sondage, qu'ils ont envoyé différents sondages, que beaucoup de médecins, ça va les pousser vers la retraite. Plus loin que ça, on a aussi dit que Nouveau-Brunswick, Ottawa faisait des beaux yeux doux aux médecins présentement parce qu'on en a besoin.
Hey, surtout Ottawa, imagine, t'habites à Gatineau, t'as juste à traverser un petit pont puis t'es rendu à Ottawa puis t'es pas dans ces critères-là. Là,
donc, on pourrait voir certains médecins, des médecins de famille, des médecins spécialistes qui décident de dire
«
Écoute, je suis pas d'accord qu'on m'oblige à prendre un certain temps pour voir mes patients, qu'on lie ma rémunération avec des objectifs qui sont pas seulement liés à moi, ben je vais partir au Nouveau-Brunswick, je vais partir à Ottawa. » Puis d'ailleurs, je tiens à dire des médecins spécialistes qui prendront la parole à 13h30 cet après-midi sur la situation.
On va surveiller ça et le retour de Gravel va vous tenir au courant, évidemment, des dernières informations. Bon, avant d'aller voir des médecins fâchés et avec raison, parce que je pense que cette loi spéciale-là est beaucoup trop dure et elle est faite beaucoup trop tôt dans le processus de négociation, tu étais allé voir sûrement une des personnes en politique les plus heureuses à l'heure actuelle, c'est-à-dire le maire sortant, Bruno Marchand, qui se pète les bretelles, puis qui dit « Hey, l'opposition fait tellement de mauvaises campagnes que moi, je vogue vers une majorité au conseil de ville. »
On ne demande plus la mairie, on demande la majorité.
Ben oui,
avec
imagine-toi.
La mairie.
Hey, ça a changé pareil, hein, Pascal, imagine. Quand la campagne a commencé, le maire Marchand jouait sa peau, jouait le fait d'être le premier maire dans l'histoire de la ville de Québec à ne pas être réélu après un mandat. Et là, il est rendu à dire « Donnez-moi la majorité. »
Ce qui est normal, rendu au stade où il est. Sauf
ben
que,
oui.
Est-ce que c'est lui qui a gagné chacun des points? Je pense que même lui peut dire que non.
Oh, c'est clair. C'est les autres qui ont une mauvaise campagne électorale.
Oui, puis il a avoué à quelques reprises que, selon lui, oui, sa campagne présentement impacte sur son niveau dans les derniers sondages, mais qu'également des performances qu'on peut dire quand même médiocres par moment de ses opposants. L'influence également. Aujourd'hui, du côté de Québec Ford Taffière, on s'engageait à bonifier la communication auprès de surtout des aînés, en fait, eux qui n'ont pas nécessairement accès à Internet. C'est 1,5 million qui seront dépensés. Comment? Notamment en installant des babillards dans chaque district avec de l'information locale pertinente à savoir pour les différents habitants du district. On va engager des artistes pour faire des beaux babillards, là, pas des cochonneries. Ouais, ouais. On veut mettre ça
Mathias.
Beau.
On veut des beaux babillards, mais pas des cochonneries.
On mettra pas des cochonneries, des papiers partout, là, que t'enlèves la petite affaire avec le numéro de téléphone, comme dans le temps. Oh, minute!
Puis également, on va doubler les bulletins municipaux envoyés par la poste. Donc, on va en envoyer 6 au lieu de 3. Ouais. Donc, aux 2 mois.
Pas mal convaincu que Pascal va être d'accord avec moi. Un faux pas de Bruno Marchand depuis le début de la campagne électorale.
Oui.
L'incinérateur. La promesse à 1 milliard. On a-tu vraiment besoin de faire ça du côté de Bruno Marchand?
Ben actuellement, non.
C'est ça. Hein?
Actuellement, je veux dire, il aurait pu laisser le dossier complet de côté. Puis, est-ce que c'est du courage politique, par exemple?
Ouais, c'est une façon de mettre de la pression sur le gouvernement, peut-être, mais il aurait pu le faire une fois élu, vu qu'on tombe en campagne électorale provinciale.
Mais toi, tu parles de la stratégie en arrière, maintenant, la stratégie électorale. Sauf que quelque chose, par exemple, si on en parle en campagne électorale, on montre c'est quoi les enjeux qui suivront, puis de quoi on va parler, puis sur quoi on va plancher. Puis ça, je dois dire que je lève mon chapeau aux politiciens qui le font en campagne, même si c'est pas nécessairement payant.
Ouais, t'as raison. Mais d'un autre côté, ça peut être payant aussi parce que c'est Limoilou. Limoilou, on veut sortir de Jackie Smith. On a Raymond Poirier. Mm-hmm, donc, il y a ça aussi. J'imagine, Mathias, vous l'avez questionné là-dessus. Vous avez dit, hey, il y a le Marchand, l'incinérateur. Vous allez où avec ça?
Oui, bien, c'est Radio-Canada qui l'a questionné là-dessus parce que c'est sorti ce matin dans Radio-Canada qu'en réalité, les chiffres sur l'incinérateur, c'était basé seulement sur des hypothèses. On n'avait pas vraiment de baromètre précis pour savoir ça allait coûter combien. Donc, on lui a posé la question et il a dit que pour lui, c'était normal d'avoir des promesses basées sur des hypothèses en campagne.
C'est ça le but d'une campagne. On vous précise où nous, on s'en va. Puis évidemment, après ça, on va passer aux différentes étapes qui vont nous amener à un programme fonctionnel et technique qu'on appelle dans le jargon un PFT, où là, on va avoir la précision. C'est pour ça que quand je l'ai annoncé, ceux qui y étaient, vous allez vous en souvenir, j'ai dit, on estime à 1 milliard. Dites-moi pas si ça finit plus haut ou plus bas qu'on s'est trompé. On commence avec l'idée de dire, on pense que c'est ça la bonne solution. On a l'audace de le présenter en campagne. Puis oui, les hypothèses vont devoir être validées. Vous avez tout à fait raison.
T'as battu sur le bureau?
Oui, il joue après quoi?
Ouais, fâché!
Il jouait après le bureau, fait que ça bougeait mon trépied de mine.
Mais ça, des fois, c'est intéressant parce que tu vois là où le politicien est moins à l'aise.
Ben, c'est ça
que
j'allais dire.
Sujet.
Là,
fait que moi,
tu
des
vois
petits bruits comme ça, je suis comme, il joue après quoi, là?
C'est ça que j'allais dire. Tu vois que ça le tente. Ça va être évidemment un dossier à suivre, l'incinérateur, surtout après, justement, l'élection, parce que ça va vraiment être un dossier majeur pour la Ville de Québec et sa gestion des déchets. Mathias Turcotte, tu fais toujours une job incroyable. Je te souhaite un excellent week-end.
Ben merci. Bon week-end aux
profites-en au max. Puis la semaine prochaine, c'est la dernière semaine de campagne.
Ça roule.
Ça roule hein? Déjà la dernière semaine. Je vous rappelle, 2 novembre sur nos ondes, émission spéciale, soirée électorale. On va couvrir Québec-Lévis. Puis on va même être diffusé à Montréal, Pascal, dans la grande métropole. Ça va être le chum Alex Laramé qui travaille là-bas, justement, qui va nous accompagner. Puis parlant de Montréal, Pascal, méchante bonne nouvelle pour Leclerc Communication. C'est-à-dire que Leclerc Communication se réjouit de la décision rendue aujourd'hui par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui rejette en bloc la plainte déposée par Cogeco Média et Bell Média et confirme qu'elle peut continuer à diffuser le contenu de Cube Radio sur les ondes du 99.5 Montréal.
On explique la situation. On a une antenne, nous, du côté de Montréal et on diffuse la programmation de Cube Radio qui, Cube, ne peut pas avoir et détenir une antenne et l'exploiter parce que, bon, si elle est propriétaire de cette antenne-là, c'est un peu comme un genre de monopole là, dans des environs. C'est un peu technique. Chose, peu importe, avec laquelle on a tenter d'expliquer que nous, on prend une partie de leur programmation et on la diffuse sur nos ondes du côté de Montréal parce qu'on trouve que c'est intéressant, on trouve que c'est des acteurs politiques qui sont pertinents, donc on était très heureux de les diffuser.
Et la preuve, là, c'est que Mario Dumont est en montée fulgurante le matin.
Et clairement, les gens sont heureux de les entendre sur une antenne radio. L'affaire, c'est qu'effectivement, des compétiteurs ont dit ce n'est pas légal, ce n'est pas légitime ce qui se passe. Et il y a eu un genre de... d'entendre du côté du CRTC qui dit qu'effectivement, on a le droit de le faire, puis chose certaine, il va y encore y avoir programmation de Cube sur les ondes du 99.5 à Montréal et programmation de Leclerc Communication ici à Québec qui est transposée à Montréal.
Exactement. Pascal, sais-tu ce qu'on va faire après l'émission?
Dis-nous.
On va aller vers le fond des bureaux, OK? Puis on va aller voir, d'après moi, les boss doivent être en train de popper le champagne, ils vont être pas mal heureux. Puis vu que c'est vendredi, on va aller voir une coupe.
Une petite coupe de champagne.
On fait ça?
Ben, s'il y en a. Oh, moi, je dis pas non. Hein.
On va aller se faufiler vers le fond du bureau. Donc, Nick, Jeff, si vous êtes à l'écoute, là, tu mettons, vous n'avez pas encore popé le champagne. Là. Vous n'avez même pas acheté encore. Il reste 44 minutes avant qu'on soit plus en bas.
Sachez-le.
Pascal Simon fait une courte pause. Irénée Rutema,
oui.
Sûrement un des chroniqueurs qui est devenu un des préférés de nos auditeurs, va être avec nous au bout du fil. On va parler de cette semaine de campagne électorale. Il s'est encore passé plein d'affaires. Puis Irénée me dit, Jeff, j'ai jamais vu une campagne sale de même. J'ai jamais vu une campagne où il y a plein d'affaires qui sortent. On passe de l'ingénieur aux tickets en passant par les loyers non payés avec Irénée Rutema immédiatement après cette courte pause. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Jusqu'à 14h, émission On en jase. Pour nous joindre, 418-971-1021. Vous le faites très bien par texto, comme à l'habitude. D'ailleurs, on a un auditeur qui nous écrit qu'il y a le gros problème dans le monde de la santé. Lui, il travaille dans le monde de la santé, Pascal, puis pas de surprise là-dessus. C'est la bureaucratie.
Ben c'est vrai. Puis honnêtement, je m'en fais parler aussi dans d'autres métiers du genre, tu sais, tout ce qui a trait au gouvernement, la DPJ, les intervenants. Mm-hmm. La bureaucratie, les rapports à remplir, vraiment. Les ci, les ça, c'est lourd parfois.
Ah oui, exactement. Donc, ça empêche justement d'être productif. À la météo, c'est 9 degrés aujourd'hui, alternance de soleil et nuages. 8 degrés samedi, alternance de soleil et nuages. Et 8 degrés, mais nuageux pour dimanche. On a perdu notre soleil, mais peut-être qu'on va l'avoir une petite partie de la journée.
On se sentira pas mal d'être relax, ça veut dire. Non. Moi, je le vois de même. S'il pleut ou quoi que ce soit, on se sent pas mal le reste à la maison.
Je viens de voir dimanche 26 octobre, j'ai l'impression qui a passé. Sais-tu pourquoi?
Vas-y.
C'est mon grand garçon qui va avoir 18 ans.
Ton gars.
Mon Elliot ton premier va avoir gars 18 ans.
Qui devient majeur.
Ouais.
Hey, c'est une grosse étape dans la vie d'un parent, ça.
Oh, mais hein. Puis il est assez beau. Je suis assez fier de lui.
Maintenant, tu vas pouvoir dire, ben là, t'es majeur à vacciner pour qu'il prenne de bonnes décisions lucides.
C'est ça, exact. Ah, il prend déjà les bonnes décisions. Il est super hot. Hey, tu vois, il a du cégep à 8 heures le matin, tous les matins. Puis là, il doit... À 2h, il finit son chiffre au McDo. Il est de 7h à 14h au McDo le vendredi.
Ah, oh, un petit gars organisé, sérieux,
tous
responsable.
Tous les matins, il se lève à 6h. Je suis très fier de lui. Puis il dit, « Papa, j'écoute Boulevard 102. »
Pour vrai?
Oui, il écoute son frère. Oh, il est cute. Oh, je suis fier.
Gros party en fin de semaine.
Ah, j'ai hâte. J'ai vraiment, 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 vraiment hâte de son party.
Tu sais que c'est le début de la fin, par exemple. Hein? Ça s'en va vers l'âge adulte.
Oh, c'est
ça
des...
va faire sa vie, moins de temps avec papa.
Avec Elliot, c'est... Puis là, c'est pas du tout négatif, ce que je vais dire, mais c'est déjà le début de la fin, dans le sens, il est chez sa blonde, son
c'est
bain,
ça.
Ils ont le sous-sol à eux autres.
Son tannant plus jeune, mais il paraît qu'il faut chérir ça.
Oh, ouais, ouais,
puis même
ça.
Enfant.
Ouais.
Moi, j'ai des moments où je me dis, crime, un petit souper de famille, un mardi, mm-hmm. Je serais contente.
Ben oui.
Là.
Par contre, j'ai tellement des belles conversations avec lui.
T'as travaillé pour.
Ah, ça fait toute la différence.
C'est ta priorité.
Oui, puis quand on se voit, on est content de se voir. On a le sourire aux lèvres et on est heureux. Parlant de personnes heureuses, Pascal, je pense que j'ai jamais vu fâcher cette personne-là.
Ça doit être dur de le voir fâcher.
Toujours, toujours, toujours heureuse, cette personne-là. Je parle de Irénée Rutema, chroniqueur politique municipale pour nous à Boulevard 102.1. Irénée, ça t'arrive-tu de te fâcher?
Bonjour à vous deux. Oui, ça m'arrive de mon passé, mais rarement.
OK. Irénée, qu'est-ce qui te choque, mettons, en politique, toi? Quand tu vois quelque chose en politique, qu'est-ce qui te choque?
Ce qui me choque, c'est le manque de culture et d'information que souvent les gens ont à propos des politiciens. Et je t'explique. Et parfois, je rencontre des gens qui me posent des questions sur, disons, M. Marchand, Monsieur Justin Trudeau, l'ancien maire Labeaume, Madame Marois, et vu que la télé ne rend pas justice aux élus, parce que souvent c'est une clip, c'était une 10 secondes, hein, les gens ne connaissent pas les politiciens comme nous les connaissons, parce qu'on les côtoie, alors qu'ils sont toujours surpris par, disons, le magnétisme de Monsieur Trudeau, le magnétisme, on revient là-dessus, le magnétisme de Monsieur Charest, le magnétisme tranquille de Madame, comment il s'appelle, Véronique Yvon.
Oui.
Donc c'est toujours fascinant. Et ça, c'est un deuxième élément qui me fâche souvent. Parfois, on est dans des conversations, dans un salon, et on commence à discuter certaines personnes prétendent connaître les choses mieux que nous. Et parfois, je réalise qu'il n'y a pas de dialogue possible. Alors, ça me fâche et je me retire de la conversation.
Les
et
gens,
je passe au suivant.
Les gens fermés, pas ouverts d'esprit, en effet. Irénée, ça a fait la manchette hier. Les tickets non payés de Stéphane Lachance, son nombre élevé de contraventions. On écoute ensemble son argumentaire qu'il a donné en conférence de presse hier. Puis à la fin aussi, on lui pose la question. Coudonc, je regarde à gauche, je regarde à droite. Comment ça, le Soleil puis Radio-Canada sont pas là?
Ça va être quoi la prochaine chose? Ils vont me parler de ma cassette vidéo en 87 que j'ai retournée en tard. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, il y a une limite à... En tout cas, quand j'ai lu les conditions pour devenir maire, on m'a jamais parlé que je devais présenter mon dossier de conduite, là. Alors, tu sais, de faire de ce type de recherche-là, je m'interroge, tout simplement. Alors, c'est ce que j'ai à dire sur le sujet, pas plus que ça.
Ils sont pas là aujourd'hui, les journalistes du Soleil?
Ben non, ils sont pas là.
Aucune raison.
Je sais pas.
Aucune.
Aucune.
On n'a pas de raison.
Deux choses, là-dedans, Irénée. La première chose, est-ce qu'on va trop loin? Sam Hamad n'est pas un ingénieur. L'Ordre des ingénieurs envoie un huissier porter une mise en demeure. On fouille l'étiquette de Stéphane Lachance, mais là, on le fait aussi pour Sam Hamad et Bruno Marchand. C'est juste qu'il avait les meilleurs résultats que M. Lachance. Bref, ça va être quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on va mettre des enquêteurs privés à la porte des résidences des politiciens pour voir ce qui se passe?
Mais écoutez, quand je suis ce qui se passe depuis le début de cette campagne-là, j'ai l'impression, sérieusement, il y a une chasse aux squelettes. Il y a ce que je commence à appeler des archéologues politiques là, qui passent leur temps à fouiller dans les placards des candidats. Et ça m'inquiète parce que je pense que M. Labeaume sera un nom plus tard. Hein, et ça va décourager les gens à faire de la politique. Hein. Et ce que je trouve bizarre, donc, et particulier et surtout inquiétant, c'est que... ce sont des allégations. Oui, les gens ont été imprudents, oui. Parfois, les politiciens veulent être plus catholiques que le pape. Oui, ils doivent emporter les responsabilités. C'est que je pensais qu'on n'avait pas assez l'étape de la ce que j'appelle la jurisprudence Alex Boissonneau, et que malgré les actes criminels, il a reçu un pardon. Monsieur Duhem a sorti ça, les électeurs ont décidé de voter pour lui. Je pensais que c'était terminé le fouillage là, dans les placards des candidats ou des politiciens. Par après aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Boisclair 1.0, donc pas Boisclair 2.0 et 3.0, ouais. Quand ils se présentaient au leadership du Parti québécois en 2005, hein, écoute, il y avait eu des fouilles incroyables.
Et là, on avait su, il avait déjà pris de la cocaïne.
Exactement. Écoutez, ça a fait scandale. Mais à la fin, les gens ont décidé de l'élire comme chef du Parti québécois. Alors, je trouve que on exagère beaucoup. Personne n'est parfait. Les politiciens sont des êtres humains. Et parmi les chrétiens qui nous écoutent, là, Jésus semble aussi qu'il avait dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Mais là, on peut. Oui, je t'écoute.
Mais je fais une petite nuance par rapport à ça parce que, mettons, la façon de gérer avec rigueur certaines choses, puisque c'était quand même assez intense, le nombre de tickets impayés et tout ça, là, t'sais, sur plusieurs années. Moi, j'ai une petite différence. Honnêtement, cette campagne-là est abjecte parce que est dégoûtante parce qu'effectivement, on parle pas beaucoup d'idées, de débats, de d'enjeux, de où est-ce qu'on veut s'en aller avec la ville. On est beaucoup dans les attaques personnelles, dans le contenant au lieu du contenu. Sauf que, effectivement, ça date pas d'hier d'aller voir la rigueur que la personne a dans sa vie personnelle. Oui. L'affaire d'étiquette avec Stéphane Lachance pendant... T'sais, ça aurait pu durer 10 minutes. Oui, c'est arrivé. Maintenant, c'est payé. Il aurait pu répondre à la question « Est-ce que ça nuit à votre travail au professionnel de voir que vous avez un manque de rigueur sur votre propre finance? » Après, l'électorat se fait une tête. Je vois une chose différente dans ce genre de nouvelles-là qui sort sur le candidat versus des informations sur un divorce, par exemple, dans une vie amoureuse ou dans un... À moins que ça se ramasse au criminel. Ça, je trouve ça important. Tu sais, André Boisclair, ce qui s'est passé dans le 2.0, c'est important. C'est fondamentalement important. Mais je pense que dans ma distribution des non-trophées ou des trophées aux politiciens, il y a des choses quand même qui doivent être sues par le public si jamais ça sort. Si ça sort, il y a des choses que je trouve intéressantes, mais après, on se fait une tête.
Oui, je partage ton avis, mais ce que je trouve, donc, c'est c'est comme si c'est de trop. C'est comme moi, comme électeur, comme citoyen, je trouve que it is too much. Ça sort. Que ça soit d'un bord ou d'un autre, je trouve que ça rajoute le cynisme. Et oui, Monsieur Lachance a manqué de jugement. Je comprends qu'il a manqué de jugement, mais je trouve que c'est un peu trop. Donc,
est-ce que c'est trop parce que la campagne elle n'est qu'hargneuse depuis le début? Est-ce que c'est trop parce que la campagne, justement, c'est beaucoup plus une affaire de je taille la face depuis le début? Est-ce que ce serait moins grave puis ce serait plus intéressant si jamais il y avait une campagne beaucoup plus politique, beaucoup plus intelligente?
Oui, je suis d'accord avec toi et je trouve que la campagne est quand même très sale. Et j'ai l'impression parfois que nous sommes dans une campagne américaine. Souvent, dans les campagnes américaines, tous les coups sont permis. Rappelez-vous, M. Trump qui accusait M. Obama de ne pas être né aux États-Unis. Et une fois, il y avait eu un John McCain qui se présentait contre George W. Bush dans les années 2000. On l'avait accusé d'avoir un enfant illégitime qui n'était pas de couleur blanche, alors que c'était un enfant qu'il avait adopté. Alors, j'ai l'impression que notre politique municipale s'américanise davantage. Et moi, ça m'inquiète. Et je vous jure, souvent je publie mes réflexions sur Facebook. Cette semaine, je l'ai fait à peine parce que j'ai vraiment hâte que la campagne se termine. Et je vais voter par anticipation dimanche prochain. Et je vais suivre ça avec intérêt. Mais j'en ai marre un peu là.
Oui, je comprends très bien ton état d'esprit. Et Renaud, on termine là-dessus. Dans l'extrait, la dernière portion était sur le fait que Respect Citoyen n'avait pas invité Le Soleil et Radio-Canada à son point de presse en raison, justement, qu'ils étaient derrière l'article sur les tickets. On a Bruno Marchand qui ne va jamais à une station de radio ici à Québec.
Oui.
Est-ce que les politiciens devraient bouder les médias comme ça ou être plus courageux et faire face à la musique?
Moi, je pense qu'il faut être courageux et faire face à la musique. Et il y a une expression en anglais, là, qui est « If you can't take the hit, stay out of the kitchen ». Fait que tu dois faire face, ça fait partie de la vie, et tu t'es engagé pour faire un travail, et je pense qu'il faut faire face à la musique.
Merci beaucoup, Irénée Rutema, pour cette excellente chronique municipale encore une fois. Puis vendredi prochain, quand on va se parler, on va être à 48 heures du vote.
Exactement. Alors, votez par anticipation si vous le pouvez. Et at the end of the day, non, au bout de la ligne, nous vivons dans une démocratie. Et voilà. Il faut le souligner.
Merci beaucoup, Irénée. Salut,
bonne semaine.
Je te souhaite un excellent week-end. Salut.
Je trouve ça intéressant. Les gens sont divisés, Jeff,
oui,
par
vraiment.
Texto. Il y en a qui disent, ben moi, c'est essentiel de connaître le parcours, la façon dont ça se passe pour nos politiciens avant qu'ils se présentent en politique. Beaucoup s'arrêtent aussi aux choses qui sont très personnelles. Quand c'est vraiment dans le domaine personnel, on parle d'enfants, on parle de relations amoureuses. Quand il n'y a rien de criminel, là, on s'entend.
Non.
Ben, les gens sont comme, non, ça ne devrait pas parce que c'est très sale, comme salace comme façon de faire.
En plein ça.
J'aime aussi l'expression qui est utilisée par un auditeur qui dit, quand le clou est rentré, on range le marteau.
Donc.
Si, par exemple, la campagne n'avait été que sale auprès de Stéphane Lachance, à un moment donné, quand peut-être tu sors à chaque jour des choses sur un candidat, puis c'est vraiment que le candidat qui est visé par ce genre d'enquête-là, je peux comprendre aussi là, que trop, c'est comme pas assez. Mais tout le monde a mangé son coup de marteau dans le front.
En plein ça. Et dans le cas du Soleil, je le répète, ils l'ont fait l'exercice pour tous les candidats à la mairie. Puis là, ben malheureusement, le comportement de Stéphane Lachance était déficient.
Puis, tu sais, la réaction, la façon de réagir face à ces choses-là parle beaucoup aussi d'une personne.
Clairement, et on a vu hier que ça a été réagi avec beaucoup... on était aigris.
Oui, puis même chose, sa maman aussi a perdu patience à certains moments.
Vraiment.
Bruno Marchand est connu aussi pour avoir des réactions vives dans certains dossiers quand ça va pas
entièrement
dans le courant
qu'il
veut. Ça, je pense que les politiciens... S'ils veulent faire de la politique, on revient à l'expression « si tu peux pas handle la chaleur dans une cuisine, tu peux pas faire avec la chaleur dans une cuisine, tu dois sortir. »
Mais ça m'a mal, il est peut-être fâché parce que t'es, Pascal, dans le fond.
Elle est habituée à moi, là.
Ouais.
Moi, là, je suis pas philosophe.
Il est pas philosophe.
Je suis pas un poète, là.
Il est pas poète.
Je suis pas un grand littérature, là. Moi, je suis ingénieur.
Je suis un ingénieur.
C'est vrai, par contre, que tu peux manquer un petit peu de... Tu peux manquer un peu de patience quand t'as une campagne politique comme celle du municipal au Québec.
Exactement. Pascal Cévin, on fait une courte pause. Par la suite, tu nous reviens avec des nouvelles qu'on a manquées cette semaine.
Oui.
Puis on va parler de sport aussi parce que c'est ce soir, Pascal, que débute la Série mondiale de baseball. Les Dodgers sont à Toronto pour affronter les Jays. On parle de tout ça après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Cette émission tire déjà à sa fin. La semaine tire à sa fin. Pascal Cévin va rentrer dans le week-end. Il est présentement 13h46. J'ai entendu des bruits de corridor qui auraient du champagne quand on va sortir.
Oui, parce qu'on a une bonne nouvelle du côté de Leclerc Communication. En fait, on était en train de se défendre d'une plainte qui avait été faite au CRTC. Oui. Plainte de compétiteur Cogeco Bell. On voulait interdire la diffusion de la programmation de Cube sur les ondes du 99.5 à Montréal, mais on a gagné. Tout est légitime.
Alors voilà. Pascal, il y a une cause qui nous tient vraiment à cœur, c'est la santé mentale et la prévention du suicide. Et là, je me trompe-tu ou j'ai lu qu'il y a des 5 à 7 philanthropiques, je pense, pour le Centre de prévention du suicide. Est-ce que c'est bien ça?
Exact. Puis tu sais, j'ai quand même aussi un genre de pensée pour la jeune fille de 14 ans qui s'est enlevée la vie du côté de Lévis. Ça fait énormément jaser. Ça, c'était dans les derniers jours. Donc, on essaie toujours de se coller très fort au Centre de prévention du suicide parce que c'est des dommages collatéraux très importants. Donc, on offre des services professionnels en prévention, en intervention et en post-vention auprès des personnes suicidaires, de leurs proches et de leurs personnes endeuillées par suicide au niveau du Centre de prévention du suicide. Puis effectivement, on a plein d'activités bénéfices puis des activités de prévention pour récolter des dons. Mais on a décidé de le faire d'une belle manière. Rendez-vous au blvd.fm, section événements, pour tout connaître. Mais le prochain événement, c'est le 19 novembre. Ça, c'est un rendez-vous dans l'une des 5 cages brasseries sportives de Québec. 5 à 7 au profit de la CPSQ. Donc, en tant que citoyen entreprise, vous pouvez organiser là, un groupe, peu importe, arriver à la cage, réserver une place. Puis il faut savoir que c'est un geste concret, même un 5 à 7
c'est
pour
ben
le
hot,
Centre de
ça.
Prévention du suicide.
Et puis le 18 novembre, c'est du quoi? Edou va avoir 16. Mon plus jeune!
Oui!
Ah, c'est la fête à Edou.
Fait que là, tu vas avoir des festivités 2 jours de suite parce que ça, c'est le fun d'aller là. Gagne un 5 à 7, un 5 à 7 pour la bonne cause.
Parlant de 5 à 7, mais d'à partir de 8 heures ce soir, le party va continuer, c'est à cette place-là. One more look at him. The wild pitch. High fly ball. Left field. Rosarena. Watches it go. C'est ce soir, Pascal Cévin, que la Série mondiale débute. Dodgers contre Jays. Les Dodgers sont les champions défendants. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que un des meilleurs joueurs des Dodgers, c'est Freddie Freeman. Et c'est un joueur canadien. Il a gagné le joueur le plus utile des Séries mondiales l'an passé. Alors là, il se retrouve contre l'équipe du Canada. Évidemment, il y a Shohei Ohtani, le japonais, qui est très bon pour les Dodgers. C'est la jeune recrue Trey Eziva-Jace qui va être le lanceur partant pour les Jays. Il va affronter le vétéran Blake Snell, qui n'accorde à peu près rien depuis le début des séries, qui a 3 victoires. C'est le retour aussi au jeu de Bo Bichette, l'excellent joueur d'arrêt-court des Jays.
Quel nom de star!
Ouais, donc bref, Pascal Cévin, ça va être extraordinaire du côté de Toronto ce soir. Deuxième match dès demain soir, samedi. Les deux matchs sont à 20h.
OK, donc si t'es dans le baseball, je vais y rester, parce que les nouvelles dont on n'a pas parlé cette semaine, parce que la politique attire notre attention puis nos débats. Il y a un ancien joueur des Hurricanes et des Blue Jackets qui a tweeté en français et qui a fait hautement réagir.
Ah ouais, c'est qui?
Il réclame le retour des expos et c'est Mike Commodore qui est allé
c'est donc bien cool, ça.
De son claquement sur le clavier pour dire qu'il est nostalgique de nos amours. C'est sûr que la série, le documentaire Netflix que je t'ai parlé cette semaine, qui est exceptionnel.
C'est un gars de la Saskatchewan, Mike Commodore. Il est maintenant rendu à 45 ans. Il a à peu près 500 matchs encore dans la Ligue nationale.
Puis tu sais, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là, parler du baseball? Non, le sport, ça rallie tout le monde. Puis ce qui est allé chercher, c'est vraiment la fibre fanatique des gens qui étaient présents aux Expos de Montréal pendant plusieurs années. En 94, hyper belle année. Ça a commencé à, chier aussi à partir
après
de cette année-là.
Après ça, à cause de la grève puis du lock-out.
L'argent a tué les Expos, c'est sûr. Mais
c'est
il en veut aussi à certaines personnes. Il a dit, il écrivait vraiment ces mots-là. Putain, Samson puis Loria, les Expos doivent revenir. venir, tabarnak.
Il écrit ça en français?
Oui, dans une belle candeur, mais tu sais, avec plein de fautes. Bonsoir, en deux mots, mes amis français.
Ah, oh, je l'adore.
OK, je vais essayer de le faire avec son accent, OK?
OK, vas-y.
Bonsoir, mes amis français. Je juste regarde ce film. C'est pourri. C'est informatif, ce film. C'est catastrophique. Putain, Sanson et Loria, les expos doivent revenir, tabarnak. Alors, si vous trouvez que j'ai fait des erreurs de français et j'ai été vulgaire, c'est vraiment les propos de Mike Commodore. Il a tweeté ça.
C'est bien drôle.
Ça s'est envolé sur la plage, médiatique tous. Les expos de Montréal, il y a encore un compte, ça a été repris. Et c'est super intéressant de voir que les gens se mobilisent un peu. Est-ce que ça va nous faire revenir les expos? Je pense au même titre que nous faire revenir les Nordiques.
Les Nordiques qui ont joué à passer hier soir contre les Whalers d'Hartford. C'était le match de l'Avalanche avec les gilets des Nordiques. Contre les Hurricanes, le gardien de but de l'Avalanche, numéro 41, comme Jocelyn Thibault à l'époque. Alors, c'était beau, c'est les Hurricanes qui ont remporté le match.
Loin de moi de vouloir faire de la pub pour Ashton, bien que, c'est une entité complètement de la ville de Québec, faut en parler quand ça vient gros comme ça. Ashton qui commence à s'extensionner. On sait qu'on a ouvert d'autres chaînes. 24e restaurant Ashton qui ouvre du côté de Mirabel le 7 octobre, qui a ouvert en fait le 7 octobre dernier. Et là, ce qu'on veut faire, c'est le mettre de l'avant, ce Ashton-là. Et on a décidé de faire une campagne publicitaire avec Ivan Demidov. Il est en vedette, puis il aime ça, lui, la poutine Ashton. Est-ce que c'est vrai? On saura. Mais chose certaine, on a pris un emblème important du Canadien de Montréal.
Pierre-Aud fait demander qui?
Venez, qui vient de sauter sur la patinoire. Je pense que j'aurais jamais à le dire ce soir. Nos amis vont le deviner. Et regardez, quel abandon!
C'est lui, hein? C'est Demidov, celui c'est bien qui compte lui. Des beaux buts comme ça, là?
Oui, puis c'est lui qui va manger de la poutine Ashton dans les prochaines semaines.
Ah, oh, ouais!
Okay. Hey, je veux te parler de quelqu'un qui a survécu à une attaque de grizzly.
Hein? C'est donc bien hot, ça!
Puis il a survécu à une attaque de grizzly parce qu'il a une expérience de boxeur. Puis on s'en va du côté de Cranbrook, c'est dans l'est de la Colombie-Britannique.
C'est quoi? Il a sorti un uppercut au grizzly? Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a des habiletés en tant qu'ancien boxeur, puis il est toujours hospitalisé. On s'entend que c'est toute une lutte quand tu t'en prends un grizzly. Mais sa femme est revenue sur l'expérience, puis on dit que c'est vraiment pour ça que Joe Pendry, il a 63 ans, il était sorti chasser. Puis il a pas chassé l'orignal, clairement.
Non.
Il pensait avoir réussi peut-être à localiser un élan, mais c'est pas ça. Il a entendu un genre de bruit dans les buissons. Et c'est deux oursons grizzly qui en sont sortis et également la mère. Tu comprends que rapidement, ça a été épouvantable. Alors, grande joute, mais effectivement, il a frappé l'ours au museau avec une frappe aussi forte que celle qu'il utilisait pour la boxe. Il a continué à frapper en levant le bras pour se protéger le visage. Et il a réussi à s'en sortir. Il a réussi à appeler le 911 et son fils pendant qu'il se battait avec le grizzly. C'est vraiment une histoire qui fait pas de sens, mais qui est vraie.
C'est exceptionnel.
Il a été secouru par hélicoptère. Il a été transporté dans un hôpital. Là, on prend toujours soin de lui à Kelowna. Mais c'est parce qu'il a réussi justement à aller chercher ses vieilles capacités de boxeur qu'il a été capable de s'en sortir.
Tout à fait incroyable. Pascal Cévit, tu te remets à tes bonnes habitudes de faire de la bouffe, toi, en fin de semaine?
Ah oui, bien là, je veux revenir à faire ma sauce à spaghetti que je mets au congélateur.
Quelle
avec les récoltes de nos agriculteurs. Ouais.
Oui, superbe. Je te souhaite un excellent week-end. Profite-en bien. Merci. On se revoit lundi. Mon gars va avoir 18 ans lundi.
Bonne fête à ton gars qui devient majeur.
C'est complètement fou.
C'est le début de la fin, mon Jeff.
Oui, je sais. Le retour de Gravel suit à 16h. Manquez pas l'entrevue avec Régis Labeaume, l'ex-maire de Québec. Et nous, on revient à midi lundi prochain. C'est toujours un plaisir de faire de la radio pour vous, chers auditeurs. Je vous souhaite un excellent week-end.
À lundi.
Bye-bye.